jeudi 27 août 2020, sur Europe 1. Ensemble, on écoute le monde changer. Et ce matin, je veux vous donner un peu de sourire, un tout petit peu d'optimisme. Vous ne me croyez pas ? Tiens, si je vous dis que le Covid n'existe plus en Chine, ou presque. Les écoles vont rouvrir et on circule sans masque à Pékin. C'est à la une à 7h, dans une minute. Et si au bout, c'était le retour à la vie normale ? Tiens, Sanofi, qui annonce être sur la bonne voie pour un vaccin. Les patrons aux universités d'été du MEDEF, qui affichent eux aussi une forme d'optimisme. C'est l'info ce matin. Tout n'est pas rose, c'est vrai, mais ça fait du bien. 7h50, l'édito politique de Nicolas Bétou, qui nous dira qu'on n'a jamais eu un gouvernement aussi pro-business. 8h15, on va tester cet optimisme. Sonia Mabrouk reçoit Jean-Pierre Clamadieu, président du conseil d'administration d'Engie. La santé, la société, l'économie, voilà quelques éléments rassurants dans notre programme ce matin. Écoutez le monde changer cette année, dans cette matinale, je veux que vous entendiez des voix différentes, les acteurs de ce changement, comme mon invité à 7h40, Svetlana Tikhanovskaya. Vous ne la connaissez sûrement pas, mère au foyer, propulsée chef de l'opposition en Biélorussie, alors que son pays opère une révolution pacifique. Ce matin, Svetlana Tikhanovskaya s'adresse aux Européens, aux Français que vous êtes. La chef de l'opposition biélorusse en exil a choisi Europe 1 pour s'exprimer. Tête à tête exceptionnelle dans Europe Matin à 7h40. Enfin ce matin, nous sommes également aux États-Unis. Ça c'est l'info de la nuit. Les suites de l'affaire Jacob Blake. La NBA à l'arrêt. Les basketteurs de Milwaukee ont décidé de ne pas entrer sur le terrain pour protester contre les violences policières. Le sport US qui se mobilise cette nuit, vous l'entendrez dans Europe Matin. C'est au nom de toute la rédaction et de toutes les équipes de la matinale que je vous souhaite le meilleur début de journée possible. Un très bon réveil. Il est 6h58.
La météo avec Cdiscount. Cet été, même en vacances, Cdiscount livre tout ce dont vous avez besoin partout où vous êtes. Profitez de votre été avec Cdiscount.
Bonjour Laurent Cabrol.
Salut Mathieu, et dis donc, j'adore votre optimisme.
Mais il faut un peu, matin. Il faut, non mais on va pas mentir aux gens, vous savez Laurent, non, mais tout n'est pas rose. Mais on va quand même prendre les bonnes nouvelles quand elles arrivent.
Ben oui, mais je suis sûr que nos amis aussi, ça leur a donné la pêche parce que franchement, tout n'est pas rose, vous allez voir, ça va aller mieux. Ben, moi aussi j'ai ça à vous donner, j'ai cet espoir à vous donner. Ça n'est pas rose, la pluie n'est pas encore arrivée, mais elle arrive et elle va donner un petit peu d'eau à notre terre qui en a bien besoin, même si les nappes phréatiques sont pleines presque toutes et nous avons besoin d'eau et nous en aurons. Elle est là l'eau, elle est là sous la forme de pluie qui se manifeste sur le Morbihan et sur le Finistère. Ces pluies vont gagner dans le courant de la journée les côtes de la Manche presque dans leur entièreté. Et puis, le Poitou-Charentes, la région parisienne, seront sous un temps, bon, disons, pas trop désagréable, même s'il est voilé. Il ne pleuvra probablement pas. Je verrai cela sur Paris, je vous le dirai tout à l'heure. Et puis, plein soleil maintenant sur le Berry, le Morvan, la Champagne, la Lorraine, l'Alsace, la Franche-Comté, le Bourbonnais, tout le sud-ouest, enfin bref, la région Rhône-Alpes, la vallée du Rhône. Et j'ai pas oublié le bassin méditerranéen. Donc, soleil sur les deux tiers de la France. Voilà l'espoir. Allez, entre 23 et 35, l'espoir pour ceux qui aiment le soleil, qui sont en vacances, l'espoir pour la pluie qui arrive et ceux qui en ont besoin.
Merci beaucoup, mon cher Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
Bonjour Hélène Zélani.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Nous sommes tous sur Europe 1. On écoute le monde changer. Il est 7h.
On peut craindre bien sûr une reprise au début de l'hiver, mais je pense que ce sera sous contrôle. Rien à voir avec ce que nous avons connu au début de l'année à Wuhan.
Elle a été le tout premier pays touché par le Covid. La Chine semble avoir vaincu le virus. En tout cas, le masque n'est plus obligatoire à Pékin. On va vous emmener dans la ville dès le début de ce journal. Des masques qui en France ne sont pas forcément utilisés à bon escient, notamment des jetables gardés plusieurs jours et même plusieurs semaines. La rentrée des classes se profile à l'horizon. Les étudiants ont un peu plus de temps, mais la pression monte face aux lacunes accumulées ces derniers mois. Elle s'appelle Svetlana Tikhanovskaya, la chef de l'opposition biélorusse et l'invitée exceptionnelle d'Europe 1 ce matin, une femme arrivée en politique presque malgré elle. Et puis le peloton du Tour de France partira de Nice samedi, un tour vraiment pas comme les autres, décalé et sous la menace de la pandémie.
Juste après ce journal, est-ce vraiment une bonne idée de prolonger le chômage partiel ? Réponse de Nicolas Barré dans son éclairage éco. 7h15, manœuvre en eau trouble dans les eaux turques. Le regard international de Vincent Hervouette, l'édito sport de Virginie Fulpin. C'est à 7h20 avant de retrouver notre nouveau rendez-vous d'histoire avec Stéphane Bern à 7h25. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous écoutez Europe Matin, il est 7h01.
Europe 1, écoutez le monde changer.
C'est donc là que tout avait commencé au début de l'année en Chine. Aujourd'hui, le pays semble avoir quasiment vaincu l'épidémie de Covid-19. Il enregistre moins d'une dizaine de cas par jour pour la plupart des personnes de retour de l'étranger.
Les écoles vont rouvrir la semaine prochaine. Mais surtout, à Pékin, le masque n'est plus obligatoire. Et ça change tout, comme l'a constaté notre correspondant Sébastien Lebelzik.
Qu'il est bon de se promener sans masque dans les rues de Pékin. Les sourires sont de retour et la vie a presque retrouvé son cours normal après 7 mois de contrôle particulièrement sévère. La Chine est peut-être sur le point de crier victoire, comme l'explique Wu Junyu, médecin épidémiologiste à Pékin.
On peut dire que nous sommes parvenus à contrôler l'épidémie parce que nous avons pris très tôt des mesures strictes. On peut craindre bien sûr une reprise au début de l'hiver, mais je pense que ce sera sous contrôle. Rien à voir avec ce que nous avons connu au début de l'année à Wuhan.
Grâce à une politique de dépistage systématique, des mesures de confinement et de quarantaine dès les premiers signalements de clusters et un traçage de la population avec les applications mobiles, la Chine n'enregistre quasiment plus aucun cas. Une dizaine au maximum par jour, essentiellement des personnes de retour d'un voyage de l'étranger. La Chine a également lancé les tests de ses 17 vaccins en préparation, certains étant déjà utilisés sur les militaires. Pékin, Sébastien Lebelzik, Europe 1.
Et en revanche, en France, on dénombre près de 5500 nouveaux cas en 24 heures, un record depuis la fin du confinement.
Alors si le masque n'est plus obligatoire à Pékin, ça vous allez le retenir, j'en suis sûr, il l'est dans de plus en plus de villes françaises, notamment à Marseille depuis hier soir.
Dès le 1er septembre, ce sera le cas dans les entreprises ou encore les collèges ou les lycées. Mais êtes-vous sûr que vous respectez bien les recommandations du ministère de la Santé, notamment changer son masque toutes les 4 heures? À l'écoute de ce reportage d'Ève Roger, il y a lieu d'en douter.
C'est vrai qu'un masque, je peux le garder 2-3 semaines et je le change quand je le perds ou bien quand il se casse.
Caroline connaît parfaitement la règle des 4 heures, mais pour cette jeune fille de 16 ans, hors de question de changer de masque à tout bout de champ.
Pour l'environnement, enfin, je trouve ça bête de jeter 2 ou 3 masques par jour, donc vaut mieux les économiser, même si c'est peut-être pas bon pour ma santé.
Pas de préoccupation écologique pour André, lui, n'en voit tout simplement pas l'intérêt.
J'en change que très rarement, c'est-à-dire quand j'y pense ou quand je vois vraiment celui que je porte régulièrement est un petit peu altéré. Il peut faire 2 jours, voire peut-être 3 même, si je le pousse un peu. La loi m'y oblige, donc je le fais, mais je ne suis pas convaincu.
Et pour Pascal, 2 masques par jour, eh bien ça ne rentre pas dans son budget.
Impossible. On les paye et puis on les jette, d'accord. C'est pas donné. Hein.
Alors si vous ne respectez pas strictement les règles, il ne faut surtout pas culpabiliser, rassure Christine Rouziou, virologue et membre de l'Académie de médecine. Le grand public peut garder son masque jetable ou en tissu une journée, voire 2.
Le changement de masque toutes les 4 heures concerne essentiellement le personnel médical, exposé à des patients Covid. Mais en aucun cas, cela concerne le grand public. Les masques en tissu, il suffit de les laver le soir. 30 degrés, c'est suffisant. On ne se lave pas les mains à 60 degrés.
Car ce n'est pas la température qui tue le virus, explique-t-elle. C'est le savon.
Ça va mieux en le disant. Ève Roger avec Capucine Rouault. Et puisqu'on parle de masque, hier, Jean-Michel Blanquer a précisé que tous les enseignants devraient le porter, y compris en maternelle.
Alors quant au Premier ministre Jean Castex, après sa prise de parole hier devant le MEDEF, il tient une conférence de presse ce matin sur la reprise de l'épidémie.
Le président Macron lui a donné une feuille de route, Michaël Darmon. Il a 600 jours pour redresser le pays. Comment est-ce qu'il va s'y prendre? Est-ce qu'on voit se dessiner une méthode Castex?
Eh oui, Jean Castex, c'est le distributeur à billets d'Emmanuel Macron et il est plus heureux que ses prédécesseurs qui à chaque fois devaient dire il n'y a pas de budget. Avec la gestion du quoi qu'il en coûte, c'est magique. Dès que Jean Castex va quelque part, il met de l'argent sur la table. Hier encore 2 milliards pour la culture et c'est aussi pour cette raison qu'il peut parler cash.
Est-ce que ça suffit, Michael, pour asseoir son autorité de Premier ministre?
Il a prouvé d'entrée de jeu, il se veut manager et non pas collaborateur. On se souvient qu'il a limogé le secrétaire général du gouvernement, un rouage essentiel de la machine, qu'il n'a pas hésité à contredire le président sur les modalités de la taxe d'habitation. Et il sait aussi subtilement recadrer ses ministres. Hier, par exemple, à propos des violences, il a fait la différence entre les rodomontades et les grands mots et une politique du résultat qui seul compte à ses yeux, un message entre les lignes pour Gérald Darmanin. Et surtout, il n'hésite pas à dire qu'il est le patron de la majorité. Une grande différence avec Édouard Philippe. Bref, avec Castex, c'est Matignon sans complexe.
Oui, sauf qu'il a chuté dans les sondages. C'est un problème, non?
À ceux qui le connaissent bien, assurent qu'il n'a que faire des sondages. Son obsession, c'est contenir le rebond de l'épidémie et en même temps faire rebondir l'économie. Son problème, c'est qu'il vient de la droite alors que la droite n'est pas macroniste et elle voudra sûrement lui faire payer cash cette situation. Emmanuel Macron lui a dit qu'il avait 600 jours, 50 sont déjà écoulés. Il reste peu de temps à Jean Castex pour la relance du quinquennat.
Michaël Darmon.
Il est 7h06 sur Europe 1 et c'est décidément la rentrée pour tout le monde. Les étudiants qui s'apprêtent à entrer en fac ou dans leur école, eh bien ils voient arriver cette rentrée avec inquiétude.
Ah oui, il faut apprendre à devenir vraiment autonome. Pas évident quand on a perdu l'habitude de travailler. Il y a bien sûr la peur du décrochage après une année de terminale qui s'est arrêtée en mars et pas d'épreuve du bac. En septembre, donc pas le choix, il faut mettre les bouchées doubles. Pierre Herbulot.
4 heures de cours le matin, 5 de révision l'après-midi. La fin des vacances de Ryan ne fait pas rêver.
Pour combler les lacunes qu'on a emmagasinées à cause du Covid, c'est un peu une obligation, quoi.
À 10 jours de la reprise, ce futur étudiant de médecine suit un programme intensif de pré-rentrée, pourtant optionnel dans sa faculté.
C'est une évidence qu'on a forcément moins de bagages, ça se voyait dès la petite reprise, qu'on n'avait pas tous fini le programme, on n'avait pas fait des chapitres importants, etc. Ça, c'est vraiment un défi, en fait, cette année.
Des lacunes dans le suivi du programme, peut-être, mais puisque toute la France est concernée, ça n'inquiète pas Thomas, 17 ans, qui rentre en première année de biologie. Lui, ce qui lui fait peur, c'est la reprise du rythme scolaire.
Ça fait quand même, en tout, ça va faire à peu près 6 mois qu'on n'a pas été vraiment en classe. Donc, se remettre dans la concentration, de se remettre dans le rythme, de se lever à 6 heures, ça va être différent que de se lever à midi pour les grasses maths. Le matin, ça va être difficile. Être concentré plusieurs heures sur le même prof, la même voix qui te parle tout le temps.
Une voix qui pourrait s'arrêter aussi très vite si la circulation du virus continue de s'accélérer. C'est la grande angoisse des nouveaux étudiants que quelques cas dans un amphi entraînent la reprise des cours à distance, plus difficile à suivre.
Reportage de Pierre Arbulot.
Opération de police hier soir dans un quartier sensible de Grenoble. Une cinquantaine de contrôles, mais ni arrestation ni saisie.
Selon le préfet, il s'agissait avant tout de réaffirmer l'autorité de l'État après la diffusion sur les réseaux sociaux de vidéos mettant en scène des dealers. Et puis il y a des produits toxiques dans certains cosmétiques. C'est ce que montre l'étude du dernier numéro de 60 millions de consommateurs. Métaux lourds dans les dentifrices, substances polluantes ou cancérogènes dans des crèmes hydratantes ou encore des gels douche.
On va y revenir dans le journal de 8h tout à l'heure sur Europe 1. 7h08. La fusillade, vous vous en souvenez, la fusillade avait endeuillé la Nouvelle-Zélande en mars 2019. Le tueur des mosquées de Christchurch vient d'être condamné à la perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle.
Cet homme avait assassiné 51 fidèles musulmans pendant la prière du vendredi au nom de ses idées racistes et xénophobes. Il avait filmé la tuerie en la retransmettant en direct sur les réseaux sociaux.
C'est une voix qui porte, alors que les manifestations continuent en Biélorussie contre la réélection du président Loukachenko. La chef de l'opposition Svetlana Tikhanovskaya réclame un scrutin libre et équitable.
Et elle est ce matin votre invitée exceptionnelle à 7h40, Mathieu. Voilà ce qu'elle répond quand on lui demande pourquoi son peuple en appelle au changement.
Because the time came. Parce que le temps est venu, notre peuple s'est réveillé, la nouvelle génération a grandi, ils ont vu que les autres peuples dans le monde avaient des droits fondamentaux. Il est grand temps que nous nous battions aussi pour nos droits.
Svetlana Tikhanovskaya, qui est réfugiée en Lituanie, à Vilnius. Pour tous ceux qui ne la connaissent pas, notre envoyé spécial Jean-Sébastien Soldaini trace son portrait.
Les discours incisifs de sa campagne électorale sont à l'opposé de l'image qu'elle renvoie, simple, humble, comme si la politique lui était tombée dessus par accident lorsque son mari, candidat devenu trop gênant, a été emprisonné. Elle ne cache pas ses doutes. Tantôt, elle se voit en leader national prête à piloter l'opposition de son exil à Vilnius. Tantôt, elle s'excuse presque d'en être là, car ce qu'elle veut, c'est assurer une transition, pas prendre le pouvoir. Son regard brun profond trahit ses tourments, les soupirs qu'elle pousse au gré des interviews et conférences de presse ne sont pas de la lassitude, mais ils sont presque une marque d'impuissance, une peur que son pays se retrouve en étau entre l'Union européenne et la Russie, une Ukraine bis qu'elle rejette en affirmant que seul le peuple du Bélarus doit avoir la solution, pas les puissances étrangères. La politique en équilibriste pour ne froisser personne, ne pas faire de son pays l'otage d'intérêts qui le dépassent, ne pas trop en faire pour rester le symbole d'une révolution en cours plutôt qu'un leader politique affirmé. Vilnius, Jean-Sébastien Soldaini, Europe 1.
Elle s'appelle Svetlana Tikhanovskaya et vous ne la connaissez sûrement pas. Rendez-vous compte, il y a 3 mois seulement. 3 mois, cette dame était mère au foyer et la voilà propulsée chef de l'opposition. Elle répond, elle s'adresse. Plus que répondre. Elle s'adresse aux Français, aux auditeurs d'Europe 1 ce matin à 7h40.
Le sport américain monte au créneau après les tirs d'un policier sur Jacob Blake et c'est du jamais vu. Une première équipe de basket a boycotté son match de NBA, celle de Milwaukee. Les Lakers et les Clippers de Los Angeles votent même l'arrêt de la saison, tandis que le tournoi de tennis de Cincinnati reporte tous les matchs de la journée à demain.
C'est un Tour de France vraiment pas comme les autres, hein, dont le départ sera donné samedi. Oui, samedi, à Nice.
Oui, reporté de 2 mois à cause de l'épidémie et sous la menace d'une contamination. En toute logique, un dispositif sanitaire strict va être mis en place pour les équipes comme pour le public. Des préparatifs suivis par Frédéric Michel.
une zone distincte pour les spectateurs, moins de 5000 personnes pour chaque départ et arrivée, plusieurs entrées avec un balisage pour éviter les attroupements, le masque obligatoire sur tout le parcours. Cette édition du Tour de France ne ressemblera à aucune autre. Christian Estrosi, le maire de Nice.
Sur les podiums, les lignes de départ, d'arrivée, nous avons mis des panneaux occultants pour qu'il n'y ait pas de gens collés les uns contre les autres. Nous serons assez stricts pour que chacun respecte les distanciations, porte le masque.
Du bon sens et du civisme, c'est le message de Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France.
Si je suis au bord de la route du Tour, c'est que j'aime le Tour, c'est que j'aime les coureurs, les champions. Je les respecte, je les applaudis, mais je garde le masque en permanence.
Ni les selfies, ni les autographes ne seront autorisés et toutes les personnes approchant la bulle des coureurs ont dû faire un test PCR. Vincent habite Nice et compte quand même profiter du spectacle.
Je vais sans doute venir, mais pas l'arrivée ni au départ, pour éviter la proximité et puis les rassemblements avec un peu trop de personnes. Le port du masque, il est soi-disant obligatoire, mais sur la prom, il y a une personne sur deux qui l'a pas.
Et des masques seront distribués, du gel hydroalcoolique mis à disposition. Nice, Frédéric Michel, Europe 1.
Un départ pour les 176 coureurs, donc le 29 août, arrivé le 20 septembre sur les Champs-Élysées.
Merci Hélène Zélani, c'était le journal de 7h sur Europe 1. Très bon réveil à tous.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Vous l'aurez compris, nous ouvrons les fenêtres sur le monde ce matin. Vous l'avez entendu, je vous l'ai dit, Svetlana Tikhanovskaya, invitée exceptionnelle dans le tête-à-tête Europe Matin, la chef de l'opposition biélorusse en exil en Lituanie. Mais nous sommes en Chine aussi, avec Pékin qui tombe les masques. Nous sommes aux États-Unis où l'on se mobilise après l'agression de Jacob Blake. Et puis enfin, Vincent Hervouet va nous parler des manœuvres militaires dans les eaux turques dans un instant, dans Europe Matin, juste après l'éclairage éco de Nicolas Barré. À tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
7h14 sur Europe 1, soyez les bienvenus. Réveillez-vous en douceur à l'écoute d'Europe 1. Nous accueillons à présent Nicolas Barré pour l'éclairage éco. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
Directeur de la rédaction des Échos. Le Premier ministre a annoncé hier la prolongation du chômage partiel. Alors on commence à être familier du dispositif. Une mesure qui bénéficie aux employeurs comme aux salariés. Mais Nicolas, est-ce qu'elle est vraiment pertinente ?
Il faut poser ce débat parce que le chômage partiel coûte plus d'un milliard d'euros par mois à l'État et à l'UNEDIC. C'est considérable. Faut-il le prolonger ? De combien de temps ? Curieusement, eh bien, ce débat est complètement escamoté.
Et pour quelle raison ?
Il faut bien dire que le chômage partiel arrange tout le monde. Ça permet d'éviter des plans de licenciement massifs, puisque c'est la collectivité qui prend en charge la plus grande partie des salaires. C'est donc une aide pour les entreprises et puis une protection pour les salariés qui, grâce à cela, conservent leur emploi. On comprend aussi que dans un contexte de reprise pour le moins très incertaine et de forte poussée du chômage, le gouvernement hésite à débrancher le dispositif. Il sera donc prolongé jusqu'au 1er novembre et même davantage pour les secteurs les plus touchés par la crise.
Ah oui, mais alors si ça arrange tout le monde, Nicolas, pourquoi est-ce que c'est critiquable ?
Alors, il y a d'abord un effet morphine. Ce dispositif maintient à flot des entreprises qui devraient se restructurer, mais qui reportent l'échéance. On les qualifie parfois d'entreprises zombies. C'est pas une bonne chose parce que ça fait souvent que retarder une échéance fatale et ça engloutit beaucoup d'argent public qui aurait pu peut-être être mieux investi que dans la survie artificielle d'une entreprise déjà mal en point avant la crise. En Allemagne, le comité des 5 sages, qui comprend 5 économistes très écoutés, a soulever cette question et critiquer le choix du gouvernement Merkel de prolonger le chômage partiel. D'ailleurs, là-bas, il a été prolongé de 2 ans jusqu'à la fin 2021, ce qui me laisse penser qu'en France, on ira aussi sans doute au-delà des échéances fixées par le Premier ministre hier.
Mais malgré cet effet morphine, comme vous dites, est-ce que pour autant, c'est une raison pour arrêter plus tôt le chômage partiel ?
Alors, l'arrêter tout de suite, plutôt non. Nous ne sommes pas les États-Unis, un pays où on accepte une hausse massive du chômage et beaucoup de faillites, en faisant le pari que le rebond sera plus rapide. Nous n'avons pas cette mentalité libérale. En revanche, rien n'empêche de mieux contrôler le chômage partiel, car c'est une autre critique que l'on peut faire à ce dispositif extrêmement coûteux. Certaines entreprises, notamment dans les services, on l'a vu, abusent du système en continuant à faire travailler des salariés qui sont officiellement en chômage partiel. Un système généreux, forcément, eh bien, ça crée quelques dérives.
Merci Nicolas Barré, l'éclairage éco de Nicolas Barré, tous les matins sur Europe 1. Il est 7h17. Et c'est l'heure du regard international de Vincent Hervouet. Bonjour Vincent.
Bonjour Mathieu.
Alors on en a parlé ici cette semaine, Sonia Mabrouk recevait l'ambassadeur de Turquie en France, c'était mardi matin. Des manœuvres navales ont commencé en Méditerranée orientale, malgré les appels à la désescalade, comme un branle-bas de combat dans la région. Depuis hier, la marine de guerre turque manœuvre avec les Américains et la marine grecque manœuvre avec les Français, les Italiens, les Chypriotes. Vincent, pour faire simple, c'est l'escalade ?
C'est de la gesticulation. Les militaires gesticulent d'autant plus qu'approche l'heure de laisser la place aux diplomates. Mais avant l'heure, c'est pas l'heure. Et évidemment, le jeu peut déraper. Alors, à force de faire les matamores à la frontière syrienne, les Turcs avaient fini ainsi par abattre un bombardier russe. Et Recep Tayyip Erdogan a subi 1000 représailles avant d'être admis au Kremlin pour dire « pardon, pardon, ça n'arrivera plus ». Dans le cas présent, la Méditerranée orientale est plus vaste que le ciel au-dessus des montagnes kurdes. Les marins et pilotes français, grecs, italiens, chypriotes, qui s'entraînent ensemble, se tiennent loin des Turcs qui manœuvrent aussi épaulés par un destroyer américain. On ne va pas rejouer cette étrange bataille navale du printemps dernier quand la frégate Colbert a été mise en joue par les Turcs qui escortaient un convoi d'armes en Libye. Mais aujourd'hui comme hier, la Royale se montre et démontre aux Turcs que la Méditerranée n'est pas le Bosphore, que leurs canonnières ne suffiront pas à redessiner les frontières maritimes et à mettre la main sur le gaz et le pétrole offshore. Ils doivent descendre de la passerelle et s'asseoir à la table des négociations.
Alors le président turc Erdogan a dit hier qu'il ne ferait aucune concession pour défendre ses intérêts gaziers.
Alors le ton est viril comme toujours, mais il est déjà dans la palabre. Ankara est prêt à discuter sans préavis, les Grecs aussi. La guerre du gaz n'aura pas lieu. Mais elle a déjà fait une victime, l'OTAN. Toute cette armada est 100% OTAN et l'alliance ne sert à rien. Comme toujours, les Américains sont aux côtés des Turcs. Ils en ont besoin pour endiguer les Russes et à leurs yeux, la Méditerranée c'est secondaire, l'Europe aussi d'ailleurs. C'est pas un sujet de campagne électorale. Alors que pour la France, la Méditerranée c'est la frontière, c'est vital, c'est la raison d'être de la marine nationale qui y rassemble d'ailleurs ses forces. La France aux côtés des Grecs, comme toujours. Giscard les avait aidés à rentrer dans l'Union européenne parce qu'on ne pouvait pas laisser place à la porte. Eh bien, Emmanuel Macron ne laissera pas Ulysse se faire piller par les marins d'eau trouble.
Merci Vincent. Le regard international de Vincent Hervouette, 7h15 tous les matins sur Europe 1. Et à suivre, c'est votre nouveau rendez-vous d'histoire. Vous le savez, à 7h25, l'origine de l'expression « copain comme cochon ». On va retrouver Stéphane Bern tous les jours dans Europe Matin. Tout de suite, la qualification de Lyon pour la finale de la Ligue des Champions féminine, aux dépens du PSG. Et puis tiens, un geste douteux du coach parisien. L'édito sport de Virginie Fulpin dans quelques toutes petites secondes. À tout de suite.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
Il est 7h21, l'édito sport de Virginie Fulpin. Bonjour Virginie.
Bonjour Mathieu.
Je croyais que c'était fini la Ligue des Champions. Des Français en finale de Ligue des Champions, des Françaises. Une nouvelle finale pour les footballeuses lyonnaises. Elles vont tenter de décrocher un 5e titre européen consécutif. Ce sera dimanche contre Wolfsburg. L'OL qui a battu le PSG 1-0 hier soir en demi-finale. Mais malgré l'enjeu, pour vous Virginie, c'était une soirée de souffrance ?
C'était alléchant comme match. Les deux meilleures équipes françaises face à face dans une demi-finale de Ligue des Champions, retransmise jusqu'aux États-Unis. Vous connaissez l'amour des Américains pour le foot au féminin. Il y avait de quoi saliver. Et pourtant, on a vite déchanté. Le match s'est révélé ennuyeux, cadenassé, haché par les fautes, surtout des Parisiennes. Alors je vous rassure, les femmes n'ont pas le monopole de l'ennui. Au football, on voit aussi beaucoup de rencontres soporifiques chez les hommes. Mais elles sont en train de construire l'histoire du foot féminin. Et pour que ça prenne, on a besoin de pouvoir s'enthousiasmer en dehors des Coupes du Monde. Et pour ça, il faudrait que les entraîneurs des équipes féminines aient un peu plus d'ambition, un peu moins de frilosité. Il faut qu'ils fassent jouer leurs footballeuses, enfin, puisqu'elles ont toutes les qualités pour. Alors allons-y, sans les enfermer dans une tactique de gagne petit, sinon on n'y arrivera pas. Moi, je comptais beaucoup aussi sur une rivalité grandissante entre ces deux équipes, avec des Parisiennes qui pourraient contester l'hégémonie lyonnaise. Mais en essayant juste de casser le jeu, le PSG perd à tous les coups contre l'OL qui a de la marge. C'est dommage de ne pas au moins essayer, parce qu'une vraie rivalité ferait progresser tout le monde. Mais, ouais, mais pour ça, il faut oser et c'est plus compliqué que de se plaindre de l'arbitrage.
Et puis, on va s'arrêter un instant sur ce qui s'est passé au bord du terrain, Virginie. Vous avez été choquée par l'attitude de l'entraîneur du PSG envers une de ses joueuses.
Ouais, quand Olivier Échouafny a fait sortir Sandy Baltimore du terrain, elle n'avait joué que quelques minutes, mais il fallait réorganiser l'équipe après un carton rouge. C'est elle qui en a fait les frais et elle était en larmes. Son entraîneur a donc voulu la consoler et il a eu un geste pour le moins inapproprié en lui passant la main sur la poitrine. Moi, je suis désolée, mais on ne peut pas voir ça sur un terrain de sport. Alors j'entends déjà les défenseurs du coach, ils ne pensaient pas à mal, c'était au milieu d'une demi-finale de Ligue des Champions, il y avait de la tension. Peut-être, oui, je ne suis pas en train de dire qu'ils pensaient forcément à mal, mais l'image, elle est choquante. Il y a des petites filles qui regardent ces matchs au sommet avec des rêves plein la tête. Et moi, je n'ai pas envie qu'elles pensent que ce genre de geste est normal sur un terrain de sport, non. Je ne veux pas jeter l'opprobre sur Olivier Échouafny, mais je pense que ça mérite au minimum une petite explication de sa part. Parce que là, moi, ce matin, j'ai un petit peu de mal à digérer ce que j'ai vu hier soir et je ne pense pas être la seule.
Merci Virginie Fulpin, votre édito sport tous les matins à 7h20. Et cette année, vous le savez désormais, enfin j'espère, retenez-le en tout cas, juste après l'édito sport, on va parler d'histoire. On retrouve Stéphane Bern. Bonjour Stéphane.
Bonjour Mathieu Béliard, bonjour à tous. Aujourd'hui Mathieu, c'est une nouvelle expression. Je voulais rendre hommage à l'homme de bonne chair que vous êtes, l'amateur de plats en sauce, de blanquettes de veau, de bœuf bourguignon.
En 3 jours, il me connaît déjà.
Oui, oui. Parce que voyez-vous, ce week-end, samedi, ça sera la journée mondiale de l'antispécisme. Rappelons-le, l'antispécisme, c'est le fait de penser que l'humain ne prime pas sur les autres espèces. Dès lors, les antispécistes revendiquent l'arrêt de la consommation des animaux. C'est pourquoi aujourd'hui, je me pose la question. C'est l'origine d'une expression. Pourquoi dit-on « on est copain comme cochon » Parce qu'on va être dans quelques jours déjà. Alors, on se souvient tous du cochon dans les bronzés fonds du ski. Christian Clavier tient un cabinet médical. Un sympathique couple de Val d'Isère vient avec leur animal pour tenter de le soigner. Le cochon s'appelle Copain. Et Clavier de leur donner cet ordre, mais bouffez-le votre cochon. Eh bien, sachez qu'au XVIe siècle, on disait déjà camarade comme cochon. Et au XVIIIe siècle, ami comme cochon. Mais le mystère reste entier, Mathieu. Pourquoi cochon ?
Oui, camarade, ami, copain, on l'a, mais cochon.
Mais cochon. Eh bien, cela vient de l'ancien français. Le cochon utilisé ici vient du mot « sauçon », qui voulait dire camarade ou associé. « Sauçon » vient du latin « socius », qui signifie compagnon. La boucle est bouclée. Notez que dans différents pays, des expressions similaires existent. En Wallonie, on dit également « mivi sauçon », qui signifie « ami comme cochon ». Autre jolie expression pour désigner deux amis inséparables, on dit en Tunisie « racine fait chéchia », avoir les deux têtes dans le même chapeau. On dit aussi en France, pour souligner une belle amitié, être cul et chemise. En Argentine, on préférera l'expression « como culo y calzoncillo ».
Quel accent !
Et c'est un peu comme cul et slip, tout un programme.
Tiens, en parlant de programme, justement, le programme d'Historiquement Vôtre aujourd'hui.
Eh bien, aujourd'hui, on a réuni un casting de choix avec le mathématicien Pythagore, le peintre Léonard de Vinci et le boxeur Mike Tyson. Alors, tous trois sont unis par un point commun. Vous allez me demander lequel ?
Oui, parce que je ne vois pas là.
Eh bien, ils sont tous les trois végétariens. Oui, parce que manger une oreille, bah, ça ne compte pas. Bref, on vous raconte... je parle de Mike Tyson, évidemment. On vous raconte l'histoire sans se la raconter avec Mathieu Noël à 16h sur Europe 1.
Et on vous retrouve, oui, tous les jours, mon cher Stéphane, 16h-18h et le matin sur Europe 1 aux alentours de 7h20. Très bon réveil à tous. À suivre, la météo avec Laurent Cabrol, un nouveau journal à 7h30 avec Sophie Echen à la une, des patrons optimistes. Oui, rassurés par les annonces de Jean Castex aux universités d'été du MEDEF. À tout de suite. 7h28, l'heure de retrouver Laurent Cabrol pour la météo.
Et je voudrais vous parler, moi, d'un temps de cochon. Et je vais vous dire pourquoi, parce que aussi j'aime la petite histoire, il n'y a pas que Stéphane. Dans nos campagnes, on abattait les cochons en novembre et décembre, c'est-à-dire quand il faisait froid et quand il pleuvait. Et on disait, c'est le temps du cochon. Et depuis, c'est devenu un temps de cochon. Voilà. Le temps de cochon, c'est la pluie, le fond, le vent, le froid. Alors, la pluie.
Je vous donne le numéro de Stéphane Bern. Alors, il vient de sortir du studio, mais on va arranger un truc.
Alors, la pluie est arrivée par le Morbihan, par les Côtes d'Armor, le Cotentin. La pluie va gagner toutes les côtes de la Manche. Le Poitou Charente, la région parisienne, seront touchés par un ciel le plus souvent nuageux, mais pratiquement pas de pluie, il n'y en aura pas. Et puis du soleil partout ailleurs, dans le Lorraine, le Berry, en Alsace, le Morvan, la Champagne, le Mâconnais, la Franche-Comté, etc., etc. Tout le sud-ouest, la région Rhône-Alpes, le bassin méditerranéen. Donc il fera beau sur les deux tiers de la France avec des températures extrêmement élevées. J'y viens, 22 Rennes, 23 Lille, 24 Nantes, 25 Épinal, 26 Nancy, 27 Paris, 29 Bordeaux, 32 à Lyon, 33 à Marseille, 35 à Carcassonne. Et c'est fini, après, demain, c'est le temps de cochon.
Oui, on est d'accord, hein, vous avez promis, ou en tout cas annoncé de la fraîcheur pour le week-end, Laurent Cabrol.
Ouais, c'est ça, bon. Elle sera là.
Eh ben, on va faire avec. Merci mon cher Laurent, très bon réveil à tous.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
Bonjour Sophie Echen.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes sur Europe 1, le journal, il est 7h30.
Pour le moment, on va être optimiste.
Je ne dis pas que le pire est passé, mais nous, chefs d'entreprise, on se doit d'être optimistes.
Oui, le message est clair. La rentrée 2021 sera placée sous le signe de l'optimisme. Rassemblé à l'université d'été du MEDEF, ce sont les chefs d'entreprise qui le disent. Ils entendent bien se relever après cette année inédite. Paris désormais zone rouge pour la Belgique. Bruxelles joue la carte de la prévention face à l'explosion de cas de Covid en France. L'affaire Jacob Blake aux États-Unis. Cette nuit, des basketteurs ont refusé d'entrer sur le terrain juste avant le début du match. C'est historique dans l'histoire de la NBA. Et puis bravo à vous, le confinement vous a fait prendre de bonnes habitudes de consommation. Il y a désormais plus de produits sains et de qualité dans vos assiettes.
Juste après ce journal, le tête-à-tête d'Europe Matin avec une invitée exceptionnelle. Elle a choisi de s'exprimer sur Europe 1 en exil. L'ex-candidate à la présidentielle biélorusse, chef de l'opposition, Svetlana Tikhanovskaya, à 7h40 tout à l'heure. À 7h50, un gouvernement si pro-entreprise, c'est du jamais vu. C'est l'édito politique de Nicolas Bétou. Très bon réveil à toutes et à tous. 7h31.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
La rentrée des classes approche, on le sait, celle des entreprises aussi. Les patrons comptent bien tourner la page après une saison marquée par la crise sanitaire et économique.
Les chefs d'entreprise réunis à l'université d'été du MEDEF, qui se poursuit aujourd'hui à l'hippodrome de Longchamp. Hier, le Premier ministre Jean Castex leur a annoncé le maintien du chômage partiel au moins jusqu'au 1er novembre.
Alors à quelques jours de la reprise, ces entrepreneurs affichent un sourire et se disent confiants, comme l'a constaté Carole Ferry.
« I will survive, je survivrai ». Le président du MEDEF, Geoffroy Roux-de-Bézieux, n'a pas choisi sa musique d'ouverture au hasard. Le mot d'ordre de cette rentrée, c'est optimisme. Et le message est bien passé auprès des chefs d'entreprise.
Pour le moment, on va être optimiste.
Moi, je suis toujours optimiste.
Je ne dis pas que le pire est passé, mais nous, chefs d'entreprise, on se doit d'être optimistes.
Alors, ils reconnaissent que les feux sont à peine à l'orange, qu'ils n'ont qu'une vision de court terme. Mais pour Alain Liot et Denis Papin, qui dirigent chacun une entreprise de meubles dans les Deux-Sèvres, la recette pour passer le cap, c'est savoir s'adapter et garder le moral.
Aujourd'hui, il est difficile de faire des prévisions. Alors on ne fait pas de prévisions, on travaille le jour et on s'adapte. C'est réagir vite, faire participer nos collaborateurs à nos décisions et puis les entraîner avec nous.
Il faut qu'on fasse sortir un peu les gens de ce marasme, de cette ambiance un peu négative. Il faut bien s'accrocher là où ça va bien et puis essayer d'entraîner nos équipes derrière nous, quoi. Ce sera notre force.
Et le discours sans fausse note du Premier ministre n'a fait que dégager un peu plus l'horizon, même si dans certains secteurs d'activité, le ciel a quand même bien du mal à se dégager.
Le reportage dans les allées de l'hippodrome de Longchamp, signé Carole Ferry.
Et réaction d'un grand patron sur Europe 1 ce matin, Jean-Pierre Clamadieu, le président du conseil d'administration d'Engie. Il sera l'invité de Sonia Mabrouk à 8h15 dans Europe Matin.
L'épidémie de Covid-19 se poursuit en France avec une hausse record de contamination en une journée. Plus de 5400 nouveaux cas au cours des dernières 24 heures. Résultat, la Belgique place désormais Paris comme destination à risque. Bruxelles interdit le voyage dans la capitale à ses ressortissants, à moins de se soumettre à un dépistage et à une période d'isolement. Au retour, c'est une mesure de précaution, se justifie Philippe Goffin, le ministre belge des Affaires étrangères.
Vous savez, la Belgique est au cœur de l'Europe, donc on est vraiment très très attentif à avoir une cohérence au niveau européen. Et sur base des chiffres qui nous sont communiqués par les pays eux-mêmes, les pays par exemple où il y a plus de 100 contaminations pour 100 000 habitants, mais dans ce cas-là, ces pays sont classés en rouge et c'est le cas de Paris. Et les personnes qui reviennent alors de ces zones rouges se voient effectivement infliger une quarantaine et un test obligatoire. Il ne s'agit absolument pas pour nous de stigmatiser une région par rapport à une autre. C'est simplement d'appliquer le principe de précaution. Pour ce qui est de la France, le critère retenu, ce sont soit les villes, soit les départements. Mais ça, vous le savez comme moi, la Belgique adore la France. Et donc, pour nous, c'est très, très désagréable, cette situation. On espère que l'année prochaine, tout ça sera un vieux souvenir.
Le ministre belge des Affaires étrangères, joint pour Europe 1 par Hélène Terzian.
7h34 sur Europe 1. Ce que vous allez entendre maintenant, c'est un témoignage de colère, de grande lassitude, de révolte. En pleine affaire Jacob Blake aux États-Unis. Jacob Blake, vous savez, cet homme agressé de 7 coups de feu dans le dos par des policiers. Ça s'est passé cette nuit sur un terrain de basket, le terrain des Milwaukee Bucks. Écoutez.
Over the last few days, and we've seen the horrendous video of Jacob Blake being shot in the back 7 times by a police officer. So, our focus today cannot be on basketball.
Ces derniers jours, dans notre propre état du Wisconsin, nous avons vu la vidéo épouvantable de Jacob Blake en train de se faire tirer dans le dos par un policier. Aujourd'hui, notre préoccupation ne peut pas être le basketball. Ça, ce sont les mots de Sterling Brown, joueur chez les Bucks de Milwaukee, sur le bord du terrain.
Avec son équipe, il aurait dû affronter le Magic d'Orlando cette nuit, mais les joueurs ont décidé de boycotter la rencontre. Xavier Yvon, vous êtes le correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Ce qu'il s'est passé cette nuit est totalement inédit.
Oui, c'est historique. La puissante NBA n'avait jamais vu ça. On était à quelques minutes du coup d'envoi du match de play-off entre Milwaukee et Orlando. Mais les Bucks, les joueurs de Milwaukee, ne sont jamais entrés sur le parquet. Restés dans les vestiaires, ils ont lu un texte demandant à leurs élus de prendre des mesures. Milwaukee, vous savez, c'est dans le Wisconsin, juste à côté de la ville du drame. Dans la foulée, deux autres matchs programmés n'ont pas été disputés, dont celui des Lakers, de la mégastar LeBron James, qui a tweeté on en a marre, on veut du changement. Il y a même désormais une incertitude sur la fin de la saison parce que certains joueurs pourraient carrément décider de la boycotter totalement.
Et du côté de l'enquête, les autorités ont enfin fourni de nouveaux détails.
Oui, le procureur général du Wisconsin a précisé qu'un couteau a été retrouvé dans la voiture de Jacob Blake sur le sol devant le siège conducteur. Alors on ne sait pas si Jacob Blake tentait de l'attraper ou si le policier avait vu l'arme quand il lui a tiré dans le dos. Depuis son lit d'hôpital, Jacob Blake a reconnu avoir été en possession de ce couteau, selon le procureur. Ses avocats, eux, assurent qu'il ne le tenait pas à la main et ne menaçait personne. Et puis concernant les violences de ces derniers jours, le procureur a aussi annoncé l'arrestation d'un jeune homme de 17 ans, Kyle Rittenhouse est accusé d'avoir tué deux manifestants avec son fusil d'assaut la nuit dernière. On le voit très clairement sur des vidéos tournées à ce moment-là. Il faisait partie d'un groupe de miliciens venus défendre la ville, selon leurs termes. Et d'après les médias américains, ce mineur était notamment au premier rang d'un meeting de Donald Trump il y a quelques mois.
Xavier Yvon, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Attention aux produits que vous rangez dans les placards de votre salle de bain. Plus de 80 cosmétiques sont pointés du doigt par la revue 60 millions de consommateurs.
Dentifrice, crème hydratante, gel douche, tous pourrait contenir des substances nocives, cancérogènes. On va y revenir plus en détail dans le journal de 8h de François Geffrier tout à l'heure.
Il y a du mieux dans vos assiettes. En revanche, vous semblez avoir pris de bonnes habitudes depuis le confinement. L'isolement vous a donné envie de plus de produits sains, locaux et de qualité. Parmi les aliments dont les ventes ont augmenté ces derniers mois, le miel, Aurélien Fleureau.
Il y a une véritable révolution alimentaire. Une révolution qui ne se fait pas à la mitraillette, mais avec la fourchette.
Franck Alitru est président du syndicat national d'apiculture. Pour lui et pour ses collègues installés à proximité de zones urbaines, l'effet confinement est réel et durable. Les Français cherchent de plus en plus des aliments bons pour la santé.
Depuis plusieurs semaines, on remarque une accélération forte de la consommation du miel, qui est presque un alicament, hein, autant qu'un aliment.
Une évolution des modes de consommation, surtout portée par les 30-45 ans, selon Franck Alitru, qui souligne que le miel est loin d'être le seul produit concerné.
Que ce soit même du pain, des préparations à base de viande, de charcuterie, tout le monde ressent un engouement vers des produits de qualité. On voit une fidélisation plus forte des consommateurs une fois qu'ils ont pris cette habitude et qu'ils ont découvert des saveurs, qui les saveurs oubliées. Ils conservent cette façon de consommer et d'acheter.
Un engouement qui stimule les producteurs, les agriculteurs qui de plus en plus se regroupent et créent des lieux de vente directs auprès des consommateurs.
Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1.
Merci beaucoup Sophie, c'était le journal de 7h30 sur Europe 1 avec Sophie Hachène, 7h38.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Vous restez bien sur Europe 1, vous ne connaissez peut-être pas mon invité. Mère au foyer, enseignante de formation, son mari était un blogueur opposant au pouvoir biélorusse. Quand il a été emprisonné, elle s'est lancée dans la présidentielle il y a 3 mois de cela. Et la voilà propulsé chef de l'opposition. Alors que son pays opère une révolution pacifique face au pouvoir d'Alexandre Loukachenko, aux manettes depuis 1994, ce matin, Svetlana Tikhanovskaya s'adresse aux Européens, aux Français. La chef de l'opposition en exil a choisi Europe 1 pour s'exprimer. Tête à tête exceptionnel. A tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
7h40 sur Europe 1, une invitée exceptionnelle dans le tête-à-tête Europe Matin, l'ex-candidate à la présidentielle biélorusse. À 37 ans seulement, elle incarne l'opposition au président Loukachenko. Svetlana Tikhanovskaya, aujourd'hui en exil auprès de ses enfants en Lituanie, c'est sa première interview à une radio française. Bonjour Svetlana Tikhanovskaya et merci d'avoir choisi Europe 1.
Merci de m'avoir invité.
Après plus d'un quart de siècle de pouvoir d'Alexandre Loukachenko, pourquoi est-ce que le peuple biélorusse réclame ce changement maintenant ? Pourquoi maintenant ?
Parce que le temps est venu, notre peuple s'est réveillé, la nouvelle génération a grandi. Celle qui a beaucoup voyagé et qui a compris que la vie pouvait être différente. Ils ont vu que les autres peuples dans le monde avaient des droits fondamentaux, le droit de s'exprimer, de résister, d'élire qui ils voulaient. Il est grand temps que nous nous battions aussi pour nos droits.
Que dites-vous aux citoyens biélorusses qui ont voté pour vous, qui vous soutiennent ? Est-ce que vous leur dites de continuer à manifester, de faire attention?
Vous savez, en réalité, je n'ai pas besoin de dire quoi que ce soit. Je sais que je représente un symbole, que j'inspire le peuple biélorusse, et il m'inspire. Mais je veux leur dire que je suis très fière d'eux. Et je leur demande de ne pas abandonner, parce que je suis sûre que ces manifestations nous mèneront à la victoire.
Mais vous appelez la police, les forces de l'ordre à vous rejoindre.
Bien sûr. Vous savez, tout le peuple biélorusse et la police, on vit dans cette peur depuis plus de 20 ans. Je comprends que ce soit dur pour tout le monde de surmonter cette peur, de se battre pour ses droits. Et cela vaut aussi pour la police. Mais ils doivent comprendre qu'il est grand temps de choisir s'ils se tiennent du côté de la majorité qui veut du changement ou bien s'ils suivent une seule personne.
S'ils quittaient le pouvoir, est-ce que vous vous sentez prête à prendre la place d'Alexandre Loukachenko ?
Vous savez, j'ai ma mission maintenant. Et je ne vais pas être une présidente de long terme. Je peux être une sorte de présidente de transition pour organiser des nouvelles élections transparentes, pour que notre peuple puisse choisir un président de long terme dans notre pays. Bien sûr, j'ai fait un long chemin et je suis prête à continuer à faire tout mon possible.
Vous êtes en exil en Lituanie, je le rappelle. Vous avez rejoint vos enfants à Vilnius. Votre mari, lui, est toujours emprisonné. Svetlana Tikhanovskaya, est-ce que vous ne pensez pas, personnellement, qu'en ayant quitté votre pays, en n'étant plus sur le sol biélorusse, est-ce que vous n'avez pas perdu un peu en légitimité ?
J'ai beaucoup douté avant de partir parce que j'ai eu peur que le peuple ne me comprenne pas, ne comprenne pas ma décision. Mais j'ai espéré, et c'est ce qui s'est passé. Ils ont compris que c'était une décision difficile. Et tout le monde m'a soutenue quand je suis venue ici en Lituanie. Parce qu'ils savent dans quel pays ils vivent. Et ils sont contents que je sois en sécurité.
Est-ce que vous avez peur ?
Pas maintenant, parce que je me sens en totale sécurité ici en Lituanie. Mes enfants aussi. Mais mon cœur est en Biélorussie avec mon peuple et je sais ce qui se passe en ce moment là-bas. Les menaces continuent. Mais non, personnellement, je n'ai pas peur.
Vous avez certainement vu ces images, Svetlana Tikhanovskaya. Est-ce que vous pouvez nous dire sur Europe 1 ce matin comment vous interprétez ces images d'Alexandre Loukachenko entouré de ses gardes du corps avec un fusil d'assaut à la main ?
Oui, vous savez, je pense qu'il est stressé. Il comprend qu'il a perdu le contrôle sur le peuple, que les Biélorusses en ont marre de son pouvoir, qu'ils veulent une autre vie. Et il ne sait pas quoi faire. En fait, ces images, elles ont fait rire les Biélorusses parce que il ne sait plus quoi faire. Il ne contrôle plus le peuple et nous n'avons plus peur.
Vous êtes accusé par le pouvoir d'être instrumentalisé, de faire partie d'un complot occidental.
C'est assez étrange parce qu'il a accusé mon mari et d'autres personnes qui ont pris part à l'élection d'avoir été téléguidés par la Russie. En fait, il accuse tout le temps tout le monde et de tout.
Avez-vous besoin d'aide de l'extérieur, de Bruxelles, de Washington ?
Je suis en contact avec les leaders de nombreux pays. Et tous soutiennent le peuple biélorusse et sont prêts à nous aider dans la mesure du possible. Donc bien sûr, nous appelons à la solidarité et nous sommes très reconnaissants envers tous ceux qui permettent le dialogue. Mais cela reste notre affaire interne et personne ne doit interférer directement dans ce processus.
Svetlana Tikhanovskaya, que dites-vous ce matin à Vladimir Poutine ? Quel est le message que vous adressez au président russe ?
Je lui demanderais de juste respecter la souveraineté de la Biélorussie, parce que ce n'est pas une affaire géopolitique, mais une affaire intérieure qui se joue là.
Pour finir, je voulais vous demander, Svetlana Tikhanovskaya, vous êtes jeune, vous n'aviez pas prévu ce qui vous arrive, remplacer votre mari dans cette élection, incarner cette forme de révolution. Est-ce que vous ne vous dites pas que tout cela, Loukachenko, l'Occident, Poutine, est-ce que vous ne vous dites pas que c'est trop gros, que c'est trop pour vous tout ça ?
Parfois, c'est ce que je me dis. Mais je comprends que c'est mon devoir maintenant et je ne peux pas dire d'un coup « ça suffit » et partir. Je n'ai pas le droit. Je ne peux pas trahir le peuple biélorusse. Je ne peux pas me trahir. Donc je suis là et même si c'est trop pour moi, je dois faire avec. Et je continuerai.
Deal with this and I will.
Svetlana Tikhanovskaya, merci. Merci encore d'avoir choisi Europe 1 pour parler aux Français et à beaucoup d'Européens.
Thank you for...
Merci à vous d'alerter sur la situation en Biélorussie. Merci beaucoup.
Thanks so much.
Au revoir et bon courage. Interview exceptionnelle ce matin. Le premier entretien radio de Svetlana Tikhanovskaya, 37 ans. Elle incarne l'opposition au régime biélorusse à Alexandre Loukachenko. C'était sur Europe 1 et c'est à retrouver sur europe1.fr. À suivre, le Premier ministre a annoncé hier de nouvelles garanties pour les entreprises en difficulté. Un gouvernement aussi pro-entreprise, c'est du jamais vu. C'est ce que pense Nicolas Bétou, son édito à suivre sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
7h52 sur Europe 1, l'édito politique de Nicolas Bétou. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
Le plan de relance qui doit être annoncé jeudi prochain a déjà commencé à être dévoilé hier par Jean Castex devant les patrons.
Oui, et dans tous ses aspects, ce plan vient compléter et confirmer un dispositif totalement tourné vers ce qu'on appelle la politique de l'offre. Bon, c'est une expression couramment utilisée par les économistes. On parle de politique de l'offre ou, à l'inverse, de politique de la demande.
Mais ce qui veut dire concrètement ?
Alors, faire une politique de l'offre, c'est faire des choix tournés vers la production, vers les entreprises, une politique qui soutienne leur fonctionnement afin qu'elles puissent être plus efficaces, performantes, pour fournir, pour offrir des biens et des services. Faire une politique de la demande, c'est au contraire aider la consommation, c'est soutenir le pouvoir d'achat des ménages pour créer ou satisfaire leur demande de produits ou de services.
Ce que vous nous dites, Nicolas, c'est que le gouvernement ne se concentre pas sur les ménages, mais sur les entreprises, c'est ça ?
Absolument, parce que le chômage partiel et les aides sociales ont déjà été massivement déployés et vont continuer à l'être. Le gouvernement fait l'analyse que le plus important maintenant pour sauver l'économie, c'est de tout consacrer au sauvetage et à la relance des entreprises. Baisse massive des impôts, maintien des dispositifs d'allègement exceptionnel décidés pendant le confinement, promesse de stabilité dans la politique fiscale. Je vais vous dire, à ce niveau-là, c'est un choix et un engagement rare. Alors bien sûr, il est arrivé souvent que des hommes politiques défendent des politiques pro-entreprise, y compris devant le MEDEF, mais soit ils se faisaient alors démolir par leur propre majorité, je pense à Manuel Valls qui avait osé dire l'imprudent qu'il aimait l'entreprise.
My government is pro-business. C'est le MEDEF qui avait dit ça.
Soit ils contrebalançaient ces hommes politiques, leur discours par une dénonciation des patrons qui traînent les pieds ou se comportent comme des voyous. C'était une des spécialités de Jacques Chirac et un petit peu aussi de Nicolas Sarkozy.
Et cette fois, vous pensez que ça va passer ?
Ben oui, d'abord parce que la crise change le regard sur le rôle de l'entreprise. Ensuite, parce que beaucoup d'argent avait déjà été distribué aux ménages touchés par le Covid, et ça va continuer. Et puis enfin, et j'allais dire surtout parce que c'est cohérent avec le reste de la politique du chef de l'État. Je ne sais pas si vous avez remarqué les commentaires qui ont accompagné la décision prise par Emmanuel Macron de ne pas distribuer de masques gratuits aux élèves. C'est la responsabilité individuelle des gens. Il faut responsabiliser les Français dans la gestion du risque sanitaire. Voilà, c'est le même état d'esprit, c'est le même vocabulaire que dans l'entreprise. Et c'est d'autant plus notable qu'il est à l'exact opposé de la tendance qui avait failli l'emporter au plus fort du confinement. Vous vous souvenez, Mathieu, vous étiez dans votre garage pour faire la radio. Il fallait augmenter les impôts des riches et des entreprises. Il fallait lâcher tout sur la dépense publique, tout réinventer et même nationaliser des entreprises. Eh bien, on l'a échappé belle.
Merci Nicolas Bétou. Parfois, je repense à ce garage avec un peu de nostalgie et en même temps, je suis très heureux de vous voir toutes et tous en chair et en os. C'est ça, une matinale aussi, une équipe. Merci Nicolas Bétou, votre édito tous les matins dans Europe Matin. Nicolas Bétou, directeur du journal L'Opinion. Et ce matin, je vous l'ai dit, nous vous inscrivons dans un vent d'optimisme. Pas une bourrasque, pas non plus une tornade d'optimisme, mais une petite bise qui nous rassure. Tiens, écoutez, aux universités d'été du MEDEF, on parlait du patronat, on est optimiste pour la suite. C'était dans le journal de 7h30 et on va tester cet optimisme à 8h15 puisque Sonia Mabrouk reçoit Jean-Pierre Clamadieu, le président d'Engie. Vous avez entendu, c'est un autre sujet, Pékin, où l'on circule sans masque désormais, ça c'est le Covid qui recule. Eh bien, je voudrais qu'on s'arrête un instant sur cet extrait de La France bouge, hier midi. Je voudrais que vous tendiez l'oreille. Elisabeth Assayag et Emmanuel Duteil recevaient Olivier Bogillot, le président de Sanofi France, le laboratoire. Écoutez, ça fait du bien ce matin, on s'approche d'un vaccin.
Un vaccin, ça prend plusieurs années généralement. Là, on est dans une course contre la montre pour pouvoir le faire en moins de 18 mois, parfois un an. Et on espère pouvoir, nous, être en capacité de commercialiser un vaccin au fin du premier trimestre, début du second trimestre 2021. On va être parmi les premiers. C'est mieux d'être dans une forme d'émulation et de compétition entre les différents laboratoires en utilisant plusieurs plateformes. Et finalement, c'est une course où il faudra plusieurs gagnants à l'arrivée. Et moi, je souhaite, à titre personnel, qu'il y ait plusieurs types de vaccins qui soient efficaces. Il va falloir en produire des milliards de doses.
Olivier Bogillot, président de Sanofi France sur Europe 1. Écoutez, tiens, aussi un véritable, tous les jours, un véritable tour de France des initiatives positives, novatrices, des succès économiques. C'est La France bouge, 13h, tous les jours sur Europe 1, 7h56.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Bonjour François Geffrier.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes sur Europe 1, un nouveau journal, on écoute le monde changer. Il est 8h.
Quand ils étaient confinés, ils ont vu que le lustre pendait depuis 3 mois, du parquet a changé. Leur intérieur est devenu une priorité.
Passion bricolage, les Français avaient redécouvert leur boîte à outils au printemps. Ils l'ont regarni cet été. Information Europe 1, le boom des ventes par rapport à l'an dernier. Les entreprises ont-elles fait des stocks de masques? Réponse dans ce journal à J-5 de l'obligation du visage couvert en open space. Tiens, une apparition de François Baroin, le possible futur champion de la droite, rend visite au MEDEF. Lui, demeure le champion de la droite américaine. Donald Trump en vidéo ce soir pour ses militants, fans comme au premier jour. Et puis, Sensodyne, Signal ou Oral-B, vous êtes en train de vous brosser les dents? Peut-être avec des traces de métaux lourds dans le dentifrice, selon 60 millions de consommateurs.
Juste après ce journal, Sonia Mabrouk reçoit Jean-Pierre Clamadieu. C'est le président d'Engie, les universités d'été du MEDEF. Comment juge-t-il l'action du gouvernement? Est-ce qu'il croit dans ce plan de relance à venir? Ses réponses dans 10 minutes. À 8h30, on prend soin de vous, votre santé, avec le docteur Jimmy Mohamed, Notre Planète avec Fanny Agostini. Très bon réveil à toutes et à tous. Il est 8h01.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Poncer, vernir, carreler, maroufler. On avait bien révisé nos classiques du bricolage pendant le confinement. Il fallait s'occuper, mais preuve que tout n'est pas si morose dans le climat économique du moment. L'appétit des Français n'est pas retombé.
Europe 1 vous révèle ce matin ses chiffres. 30% de ventes en plus en juin dans les enseignes spécialisées. 19% de plus en juillet, selon la Banque de France et la Fédération des magasins de bricolage. Une passion est née, François Coulon.
Nous sommes à Saint-Philbert-de-Grandlieu, atelier restauration de portes et fenêtres chez Yannick et Philippe, improvisés bricoleurs pendant les 2 mois du confinement. Ils ont persisté pendant tout l'été.
On s'est lancé dans des tapissages, peinture, toutes les barrières, les rambardes et tout ça. Et aujourd'hui, on continue. On s'est dit, là, il faut qu'on avance. On a plein de chantiers en route.
Du côté de Clisson, c'est Marie-Claude qui a transformé son mari en bricoleur pendant le confinement.
Lui ne bricole pas du tout et j'ai essayé d'initier un petit peu. On a refait la cuisine, j'ai fait une cave.
Et depuis, vous continuez?
Ah oui. Là maintenant, on n'arrête pas. Le confinement, ça a été un déclic.
Elle aussi passe actuellement beaucoup de temps dans les magasins de bricolage. Agnès propose ses services à ceux qui ne sont pas nés avec une clé de 12 dans la bouche.
Quand ils étaient confinés, ils ont vu que le lustre pendait depuis 3 mois, du parquet a changé. Leur intérieur est devenu une priorité. Allez, on va le faire. Nous, on est rendu à faire 4-5 devis dans l'après-midi. Il y a du travail perdu la tête.
Le boom des magasins de bricolage se poursuit, plus 30% en juin et plus 19% en juillet par rapport à l'an passé. Nantes, François Coulon, Europe 1.
Autre bonne nouvelle, et on ne s'en prive pas, les 1000 embauches supplémentaires d'intérimaires chez PSA pour son site de Sochaux qui produit la très demandée 3008.
Et dans les entreprises, vous connaissez la règle, à partir du 1er septembre, masque pour tout le monde dans les couloirs, les salles de réunion et les open space.
Aurélien Fleureau, il reste à peine 5 jours pour se préparer.
Petite entreprise ou grand groupe, la question est au cœur de cette rentrée de septembre. A-t-on assez de masques ? Heureusement, la pénurie n'est plus qu'un mauvais souvenir. Jean-Marc Barqui, PDG de Siloc, fabricant de colles industrielles dans le Pas-de-Calais, a tout prévu pour ses 25 salariés.
J'ai déjà, pendant l'été, anticipé une commande de 4000 masques pour être sûr que toutes les équipes puissent en avoir et qu'on puisse, pourquoi pas, aller jusqu'à après l'hiver. Chacun a sa boîte, quand il en a plus, vient en chercher. On pose pas de questions, on leur en a donné même pour leur famille. Donc moi, je pense que là-dessus, c'est le bon sens.
10 fois plus d'employés dans le groupe Autovision, spécialiste du contrôle technique. Avec l'obligation du 1er septembre, son PDG Bernard Bourrier a commandé plus de masques pour protéger tout le monde, toujours dans les ateliers et désormais dans les bureaux.
Nous avons pris le principe très simple d'avoir à peu près entre 2 et 3 mois d'avance de stock. On augmente effectivement les volumes puisque là, tout le personnel devant avoir des masques, on va avoir plus de distribution de masques, donc plus de rotation puisqu'il faut effectivement plusieurs masques par jour, bien évidemment.
Pour éviter le manque et pour maîtriser les coûts, des groupes comme PSA se sont également mis à en fabriquer eux-mêmes. Une ligne de production vient d'être installée dans l'usine de Mulhouse avec une capacité de 12 000 masques par heure.
Aurélien Fleureau, et cet été a tout de même été difficile pour les jeunes notamment qui cherchaient un job pendant leurs vacances.
Pas facile non plus de trouver un petit boulot à faire à temps partiel en plus de ses études. Conséquence directe, une très forte augmentation des demandes de prêts étudiants, Élise Dangean.
C'est la Banque Postale qui, la première, note une augmentation des demandes de prêts étudiants, une hausse à 2 chiffres par rapport à l'an dernier, avec des demandes plus tardives. Ça, toutes les banques le constatent. Covid oblige. Et si cet indicateur est suivi de très près, c'est que les banques ont conscience que tous ces étudiants qui n'ont pas trouvé de job cet été vont avoir besoin d'une solution. C'est le cas de Tamara.
Comme je n'ai pas trouvé de travail, je vais devoir élever le montant de mon prêt étudiant. 17 000 euros, c'est quand même une grosse somme.
Kava aussi va devoir demander un prêt étudiant plus important, car cette année, exit les 3 000 euros de salaire d'hôtesse d'accueil en banque. Et alors qu'elle s'apprête à entrer en école de commerce, il va falloir s'endetter un peu plus.
Je trouve ça inquiétant. Je compte prendre un job étudiant pour l'année, pour financer peut-être mes dépenses courantes ou mes dépenses de logement. Mais je ne sais pas du tout si ça sera possible. Voilà, c'est très incertain.
Les banques se veulent en tout cas rassurantes. Elles n'ont pas l'intention de réduire la voilure des prêts accordés aux étudiants. On sera au rendez-vous, promet l'une d'elles.
8h05 sur Europe 1. C'est le rendez-vous des patrons et des politiques. Les rencontres du MEDEF à l'hippodrome de Paris-Longchamp depuis hier. Après Jean Castex, place à Bruno Le Maire, Anne Hidalgo, Yannick Jadot, mais aussi François Baroin.
Oui, François Baroin, on le voit et on l'entend moins souvent, le président de l'Association des maires de France. Toujours secret sur ses intentions présidentielles, Aurélie Herbement.
D'accord pour m'encourager, mais pas pour me bousculer. Voilà le message qu'a fait passer François Baroin à des élus le pressant d'être candidat à la présidentielle. Ira, ira pas, c'est la question qui hante LR. Il a promis de dévoiler ses intentions à l'automne avec la volonté de ne pas faire mariner sa famille politique, assure un proche. Il pourrait même donner quelques indications à la rentrée de LR début septembre, car la droite attend avec une fébrilité palpable. J'ai le sentiment qu'il ne veut pas y aller, glisse un de ses soutiens, alors que comme le dit Nicolas Sarkozy, ça doit être une obsession permanente. Un dirigeant du parti s'impatiente. S'il y va, on peut attendre sa réponse, mais s'il n'y va pas, il faut nous le dire pour qu'on s'organise. Car chez LR, beaucoup considèrent qu'à ce stade, François Baroin est le seul candidat crédible pour éviter de fermer la boutique, dixit un cadre. Et face au mystère qui reste entier, un de ses partisans philosophe, tant qu'il n'a pas dit oui, il peut dire non. Et tant qu'il n'a pas dit non, il peut dire oui.
Aux États-Unis à présent, ce geste inédit dans l'histoire de la NBA. En réaction à l'affaire Jacob Blake, cet homme noir blessé par les tirs d'un policier dimanche, les basketteurs de Milwaukee ont refusé de jouer leur match prévu contre Orlando. Deux autres rencontres ont dû être annulées. Le tournoi de tennis de Cincinnati reporte les matchs prévus aujourd'hui pour les mêmes raisons.
C'est le grand jour pour Donald Trump. Il va accepter formellement d'être candidat à sa réélection. Alors, dans quel état d'esprit sont ses plus fervents supporters ? Le correspondant d'Europe 1 aux États-Unis, Xavier Yvon, les a sondés.
Comme lors de la campagne de 2016, Joe Valenti distribue en ce moment à ses voisins des panneaux Trump à planter devant leur maison. Il y a 4 ans, on m'en avait pris une dizaine. Cette année, c'est une centaine, raconte ce patron de PME en Pennsylvanie. C'est la preuve, dit-il, que l'enthousiasme est encore plus grand pour le président sortant et que les sondages se trompent encore une fois. Et puis, ce que Joe Valenti voit ces jours-ci à la télévision le motive encore plus. On en a plus qu'assez des émeutes et des pillages, dit-il à propos des troubles raciaux. Il y a quelques semaines, Joe Valenti a même acheté un fusil d'assaut pour se protéger, explique-t-il. En Floride, c'est l'économie ravagée par le coronavirus qui inquiète Régine Trollsen, une habitante de la très chic Palm Beach.
Il n'y a que Trump qui peut améliorer cette économie. Ce n'est pas Biden qui est à moitié mort. Si les démocrates, ce ne sont même pas des démocrates, les socialistes, les communistes gagnent. Le pays est foutu.
Pour ses supporters, on l'entend, Donald Trump n'est donc rien de moins qu'un sauveur.
C'est un homme qui fait des miracles.
Mais Régine et les autres savent que leur champion est détesté par une partie de l'Amérique. Et le petit patron de Pennsylvanie résume ainsi l'enjeu de l'élection.
Is the hatred for Trump.
Qui va l'emporter ? La haine ou l'amour de Trump ? New York, Xavier Yvon, Europe 1.
Elle était l'invitée exceptionnelle d'Europe 1 il y a une demi-heure. Svetlana Tikhanovskaya, opposante au dictateur de Biélorussie Alexandre Loukachenko, se dit en contact avec les leaders de nombreux pays, prêts à nous aider, dit-elle, mais personne ne doit interférer directement dans ce processus démocratique.
8h09, vous restez bien avec nous. Dans un instant, des composants toxiques dans certains produits cosmétiques, y compris dans des grandes marques.
Et puis, beaucoup plus serein, le titre du nouveau livre d'Emmanuel Carrère, Yoga, c'est l'événement de la rentrée.
A tout de suite sur Europe.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h11 sur Europe 1, la suite du journal, François Geffrier.
Vous pouvez toujours vous précipiter sur la composition de votre dentifrice, écrite en tout petit. Vous n'y verrez pas ce que le magazine 60 millions de consommateurs a décelé, des traces de zinc et d'étain, du dioxyde de titane, des substances potentiellement toxiques.
Jérôme Lacroix, plusieurs grandes marques de cosmétiques sont épinglées par le magazine.
Oui, la liste est longue, voici un aperçu. Pour les dentifrices, Fluocaryl Bifluoré, Vademecum Fraîcheur Intense, Oral-B Gamme Complete Plus, 10 dentifrices affichent dioxyde de titane et traces de métaux lourds que vous venez de citer. Autres produits ciblés, les crèmes hydratantes et fonds de teint Hydralife de Dior, Terracotta de Guerlain, Infaillible 24 heures fraîche de L'Oréal. Certains contiennent un colorant irritant et potentiellement cancérigène. Des vernis à ongles comme Superstay 7 Days de Maybelline, ils peuvent contenir plusieurs substances irritantes, allergisantes. Attention à vos yeux par exemple si vous voulez frotter après avoir appliqué le vernis. Attention aussi sous la douche. Les crèmes, lait de vanille de Carrefour, lait végétal des Pyrénées de Dope, mais aussi le gel vanille gourmande de la marque Tahiti, ils peuvent contenir de la coumarine, allergène suspecté d'être cancérigène. Alors l'idée n'est pas d'affoler, dit 60 millions de consommateurs, mais de signaler les produits potentiellement dangereux en cas d'utilisation régulière et sur une longue période. C'est aussi un message aux fabricants, parce que parmi les 86 produits analysés, eh bien certains ont été fabriqués sans ces substances nocives et obtiennent la meilleure note.
Les précisions de Jérôme Lacroix pour Europe.
Je vais faire un test autour de la table. Si je vous dis posture de l'enfant, posture du sphinx ou encore chien tête en bas,
je sèche.
Vous séchez, on va parler de yoga. On va parler de yoga, messieurs. Le yoga, phénomène de société, oui, mais sans doute aussi de librairie dans les prochains jours avec le nouveau livre d'Emmanuel Carrère.
Il sort avec 2 semaines d'avance, tiré à 120 000 exemplaires, Nicolas Caro.
Au départ, le projet de l'écrivain est simplement d'écrire un chouette petit livre souriant sur le yoga qu'il pratique depuis toujours. C'était en 2015. Il se rend à un stage de 10 jours un peu particulier. Les participants ne sont pas censés parler entre eux. Ils méditent toute la journée et regagnent leur chambre la tête basse. Emmanuel Carrère part donc pour un reportage littéraire dont il a l'habitude. Il décrit les différentes positions, les techniques de méditation et de respiration, puisque ça va avec. Inspiration, expiration, doucement, en se concentrant sur l'air qui chatouille l'intérieur des narines. Il nous explique ce qu'est le Nirodha ou les Vritti, les pensées parasites. On en a prend beaucoup, le récit est drôle, intelligent, on se surprend même à regarder sur internet les éventuels clubs de yoga dans le coin. Mais soudain, le ton change et l'auteur aussi. La dépression le rattrape, lui qui se disait presque heureux depuis une dizaine d'années. On bascule alors de l'harmonie zen et watée aux affres de la détresse psychique grave. Emmanuel Carrère joue entre réalité et fiction, il se raconte et touche en parlant de lui à l'universel. C'est un grand carrère qui fait d'ailleurs figure de favori pour le prix Goncourt.
Nicolas Caro, vous avez très bien fait le chien tête en bas là, pendant la diffusion de ce sujet, Mathieu.
Merci de dénoncer. Nos auditeurs peuvent voir sur Europe1.fr que ce que dit François Geffrier est faux. J'ai pas encore essayé. Mais on va essayer. Vous savez quoi ? On va essayer. Après la matinale. Après la matinale, ne nous blessons pas maintenant. 8h14, vous êtes sur Europe 1. Très bon réveil à toutes et à tous. Nous retrouvons Sonia Mabrouk. Bonjour Sonia.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Le gouvernement donne des gages aux entreprises, mais est-ce que cela va assez vite, assez fort ? Notre invité est à un poste stratégique pour appréhender la situation économique. Le président du conseil d'administration du géant énergétique Engie, Jean-Pierre Clamadieu.
A tout de suite sur Europe 1, 8h14.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
Il est 8h16 et l'invité politique d'Europe Matin, votre invité Sonia Mabrouk, c'est Jean-Pierre Clamadieu, président du conseil d'administration d'Engie.
Bienvenue à vous et bonjour Jean-Pierre Clamadieu. La crise sanitaire n'en finit plus, l'urgence économique est impérieuse. Est-ce que le patron que vous êtes aperçoit malgré tout des lueurs d'espoir dans une telle période, des raisons d'y croire ?
Alors, d'abord, effectivement, je pense que cette rentrée, elle se fait dans une situation un petit peu particulière. D'abord, comme beaucoup de gens, on espérait que septembre marquerait une forme de retour à la normale. Et en réalité, je crois qu'on se convainc aujourd'hui qu'il faut qu'on se prépare à vivre pendant des mois, peut-être quelques années, avec cette situation sanitaire. Et on se prépare à ça. Alors maintenant, est-ce qu'on voit des lumières au bout du tunnel ? Bien sûr, parce que nous avons des entreprises, enfin c'est le cas d'Engie, qui sont solides, qui sont armées pour traverser la crise, qui vont devoir faire un certain nombre d'ajustements par rapport à une situation qui est tout à fait exceptionnelle. Mais oui, je crois qu'il faut qu'on en soit tous conscients. Il y a une lumière au bout du tunnel et surtout une nécessité, les uns et les autres, de retrousser nos manches pour avancer.
Monsieur Clamadieu, ça on peut le dire aussi aux patrons qui nous écoutent de PME, de TPE, notre tissu si important, parce que vous êtes à la tête d'un grand groupe, évidemment, il y a moins d'impact par rapport à cette crise.
Enfin, en tout cas, on a probablement plus de ressources, plus de moyens pour y faire face, mais je crois qu'il faut le dire à tous. On a besoin, les grands groupes n'existent pas s'il n'y a pas autour d'eux un ensemble d'entreprises petites et moyennes qui leur vendent des services, qui leur vendent des produits, qui nous aident à déployer nos différentes démarches et plans d'action. Donc on a besoin de ce tissu et oui, je crois que cette confiance, il faut qu'elle soit partagée.
Confiance, dites-vous, et il faut retrousser nos manches. Est-ce que pour cela, Jean-Pierre Clamadieu, le plan de relance dont on connaît quand même les contours, est-ce qu'il suffira à impulser une remise à flot de notre pays ?
Alors, je pense qu'en tout cas, les chiffres qui sont évoqués aujourd'hui montrent la volonté du gouvernement d'une intervention massive. 100 milliards, c'est un chiffre qui est très important. J'entends des débats pour dire c'est pas assez. Je crois que l'enjeu, le message est très fort. Donc maintenant, il faut faire en sorte que ces moyens, ils se mettent en place très très vite.
Ah, parce que c'est une course contre la montre.
C'est une course contre la montre. Je crois qu'un certain nombre d'entreprises vont faire face ou font déjà face à des difficultés de trésorerie. Elles ont été soutenues par les différents mécanismes en place, en particulier le PGE. Mais là, il faut qu'elles retrouvent le niveau d'activité qui permette de générer du cash et qui leur permette de retrouver un mode de fonctionnement normal. Donc oui, il y a une urgence à ce que les mesures du plan de relance qui seront dévoilées la semaine prochaine se mettent en place très très vite. C'est une question de semaines, c'est une question de mois. Il faut absolument que les projets, que ce plan s'applique sur des projets concrets qui sont prêts à être démarrés très très vite.
On entend votre appel ce matin. Il y a le chiffre, 100 milliards, et il y a l'application concrète qui doit être rapide. Je l'ai dit, vous êtes, Jean-Pierre Clamadieu, à un poste stratégique à la tête d'Engie. Vous êtes aussi administrateur auprès d'Airbus. La reprise en France, quand pourrait-elle intervenir ? Quand vous entendez Bruno Le Maire dire qu'on pourrait retrouver le niveau d'activité d'avant-crise d'ici à 2 ans, est-ce que c'est réaliste pour le patron que vous êtes ?
Oui, je crois que c'est à peu près l'ordre de grandeur. On sait qu'il faudra 18, 24 mois pour retrouver le niveau d'activité de l'année dernière. Hein. Je pense que c'est un niveau d'ambition qui est grand, mais en même temps, on aura perdu probablement 2 ans, peut-être 3, au travers de cette crise. Mais oui, l'enjeu, c'est de retrouver ce niveau d'activité. Et c'est possible, j'en suis absolument convaincu.
Mais comment ? Est-ce qu'il faut dire la vérité ? Est-ce qu'il faudra travailler davantage dans notre pays ? Est-ce qu'il faut augmenter le temps de travail et avoir le courage d'ouvrir ce débat en France ?
Moi, je crois qu'il faudra travailler différemment. D'abord, et c'est un des éléments du plan de relance...
Ça, c'est pas de la langue de bois, non ?
Non, c'est pas de la langue de bois. Quand je dis travailler différemment, c'est plusieurs choses. C'est d'abord profiter de cette crise, pardon d'employer ce terme, mais pour progresser dans d'autres domaines. Moi, évidemment, dirigeant un grand groupe énergétique, l'enjeu de la crise climatique et de la nécessité d'une transformation énergétique est essentiel pour moi. Le fait qu'une part importante du plan de relance soit consacrée à des investissements qui nous permettent de faire face à cette crise, c'est quelque chose qui est très important. Travailler différemment, ça veut dire qu'on apprend dans nos entreprises à faire du télétravail. Chez Engie, on a mis 40 000 personnes en télétravail.
En combien de temps ?
24 heures. 36 peut-être, incroyable, une extraordinaire réactivité. Ça, c'est un élément qui est également positif. il y aura des adaptations. Il y a des secteurs qui sont fortement touchés. Vous citiez le cas de l'aéronautique,
quand
c'est évident.
Quand vous dites des adaptations, c'est-à-dire des nombreux plans qui sont en préparation avec un risque de licenciement en cascade.
Ça veut dire qu'il y a des entreprises qui vont être obligées de réduire leur structure pour s'adapter à une demande qui a chuté. Mais elles se préparent déjà au fait qu'un jour, l'activité va reprendre. Les voyages aériens vont reprendre, peut-être sous une forme différente. Peut-être, on l'espère en tout cas, à long terme, avec des technologies différentes. Mais il faut qu'on soit prêt à cette reprise. Et tout l'enjeu, c'est effectivement pour les entreprises de s'adapter parce que c'est nécessaire, mais de garder les compétences qui sont essentielles pour permettre cette reprise.
Et sans oublier d'autres urgences, Jean-Pierre Clamadieu, vous avez insisté sur l'urgence climatique. D'ailleurs, vous avez été l'un des premiers à dire qu'elle doit faire partie intégrante du plan de relance. Mais franchement, l'urgence climatique, elle est réelle, bien sûr, mais avec le spectre d'une cascade de licenciements et de faillites, est-ce que c'est la priorité des priorités ?
Alors, exemple très concret, les énergies renouvelables. Elles ont montré pendant cette période leur importance. Il y a des projets de développement d'énergie renouvelable, solaire, éolien, peut-être des technologies encore plus originales, je pense à l'hydrogène. Il y a des projets qui sont prêts. Ces projets, ils créent de l'emploi, ils créent de l'activité. Et puis regardons l'autre aspect de la transition énergétique, les consommations d'énergie. Il y a un énorme potentiel d'investissement très concret dans ce qu'on appelle l'efficacité énergétique. Comment faire pour consommer moins d'énergie ? Ça, c'est des travaux qui peuvent démarrer dans les prochaines semaines ou les prochains mois, qui utilisent une main-d'œuvre qui est locale, qui utilisent des technologies qui sont disponibles. Il faut que ces projets
démarrent
vite.
Potentiel d'investissement et potentiel d'emploi. Mais expliquez-nous, Jean-Pierre Clamadieu, vous êtes à la tête du conseil d'administration d'Engie. Comment on peut défendre à la fois la décarbonation de l'économie d'un côté, comme vous le faites, et d'un autre, le gaz ? Le gaz, c'est votre activité la plus rentable, n'est-ce pas ?
Alors moi, je suis absolument persuadé que le gaz a un rôle essentiel à jouer comme énergie de transition. Qu'est-ce qui fait qu'aux États-Unis, par exemple, les émissions de gaz à effet de serre diminuent ? Qu'est-ce qui fait qu'en Allemagne, les émissions de gaz à effet de serre diminuent ? C'est le fait que le gaz remplace le charbon. Deuxième
vous
point.
Vous nous dites ce matin que cette transition, elle se vérifie aux États-Unis et en Allemagne.
Je dis cette transition, elle s'est engagée, ce qui surprend beaucoup de gens, elle s'est engagée aux États-Unis malgré une vision politique qui n'était pas tout à fait en faveur de cette transition, pour des raisons économiques. Le gaz est disponible, peu cher aux États-Unis et malgré les efforts du président Trump, les mines de charbon continuent à fermer et c'est très bien. Donc le gaz a un rôle à jouer dans l'équation mondiale de la transition énergétique. Et dans un pays comme la France, le gaz est un élément essentiel du système énergétique. Si on devait investir dans des centrales électriques pour faire face aux besoins d'énergie du jour le plus froid de janvier, on dépenserait des montants considérables pour fabriquer des pour mettre en place des installations qui fonctionneraient quelques jours par an. Le gaz, il se stocke, il se déstocke très vite et il nous permet de nous chauffer.
Le gaz donc, et l'hydrogène,
et il se verdit.
Il
se verdit de deux manières. Il se verdit aujourd'hui à très court terme parce qu'on est capable de faire du biogaz, c'est-à-dire d'utiliser des déchets de l'activité agricole, des déchets renouvelables. On est capable de les utiliser pour les transformer en gaz. Et puis demain, c'est l'hydrogène, un nouveau gaz.
Oui, qui est, dit-on, un bon vecteur pour l'industrie et le transport. Mais j'ai une question, Jean-Pierre Clamadieu. Est-ce que vous comprenez qu'on supprime en France 14 tranches nucléaires dans notre pays et que de ce fait, on renonce à la production d'une électricité décarbonée et peu chère ?
Moi, je suis convaincu que je suis convaincu que le nucléaire a un rôle essentiel à jouer. On ne peut pas atteindre les objectifs de l'accord de Paris sans recours à l'énergie nucléaire. Il y a une volonté de trouver un équilibre entre énergie nucléaire en France et énergie renouvelable. Je pense que le développement du renouvelable est une excellente chose. Attention à ne pas aller trop vite dans la sortie du nucléaire.
On a bien noté. Votre groupe, Jean-Pierre Clamadieu, Engie, a été marqué par une crise de gouvernance. Est-ce que vous êtes toujours à la recherche d'un nouveau directeur général chez Engie ?
Bien sûr. Alors, dans le calendrier qu'on s'était fixé, on avait annoncé en février qu'il nous faudrait probablement un an. En tout cas, on s'était dit, d'ici à la fin de l'année, nous aurons un nouveau directeur général
en place.
Ça
va vite, c'est demain.
Ouais. C'est le calendrier sur lequel on travaille aujourd'hui.
Une femme pour occuper ce poste ?
Le meilleur directeur général possible.
Parce que, est-ce qu'il y aura de nouveau une femme, donc seule femme à la tête d'une entreprise du CAC 40 ?
Nous sommes toujours aujourd'hui avec le conseil d'administration en train de travailler pour choisir le meilleur profil et ce sera le meilleur profil possible. Pour
un tel groupe, M. Clamadieu fait un profil avec du caractère, volontariste, on imagine, c'est cela ?
Il faut un profil avec quelqu'un qui croit en la transition énergétique. Il faut un profil avec énormément de volontarisme et une obsession autour de l'action. Ce groupe doit continuer à se transformer.
Mais attendez, vous m'avez dressé le portrait d'Isabelle Cocher. C'était l'ex-directrice générale d'Engie qui était démise de son poste et qui faisait face à l'hostilité d'ailleurs du conseil d'administration.
Donc, je crois que, enfin, on ne va pas revenir sur des sujets qui sont maintenant du passé, mais je pense qu'il y avait effectivement un certain nombre de désaccords entre Isabelle et son conseil d'administration.
Entrée au lieu également.
Nous avions considéré qu'elle avait fait du bon travail pendant ces 4 ans, mais qu'il fallait une personnalité différente pour poursuivre. Donc c'est ce à quoi nous préparons aujourd'hui.
Donc d'ici à la fin de l'année, il y aura un nouveau directeur général à la tête d'Engie.
Un nouveau directeur général capable de continuer cette transformation avec à nouveau un focus particulier sur l'exécution, sur l'action.
Pour conclure, Jean-Pierre Clamadieu, aux patrons, aux entrepreneurs, à ceux qui sont à la tête de petites et moyennes entreprises, aussi de TPE, qui écoutent aujourd'hui le grand patron que vous êtes à la tête d'Engie, quel mot, quel signal pour les mois à venir, qui vont être rudes quand même, on le sait?
Non, mais je crois que c'est confiance dans un premier temps. Il faut qu'on retrouve la confiance, c'est détermination, c'est volontarisme et c'est le sentiment qu'il faut qu'on travaille ensemble. Les grandes entreprises, les petites, le gouvernement, les acteurs économiques, c'est ensemble qu'on arrivera à trouver la lumière au bout du tunnel.
C'est la réalité. Il faut se retrousser les manches ensemble.
Concrète.
Merci beaucoup Jean-Pierre Clamadieu d'avoir répondu à nos questions sur Europe 1. Je vous souhaite une belle journée ainsi qu'à nos auditeurs, bien sûr.
Merci Sonia Mabrouk. 8h27, dans un tout petit instant, un nouveau journal avec Hélène Zélani. Et puis on va prendre soin de vous, votre santé, notre planète, avec le docteur Jimmy Mohamed et Fanny Agostini.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
Vous êtes sur Europe 1, un très bon réveil à toutes et à tous si vous nous rejoignez. Bonjour Hélène Zélani.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Un nouveau journal, il est presque 8h30.
Tout a été organisé pour que dans toutes les écoles, il y ait du savon, du gel hydroalcoolique. Il faut rassurer les parents, protéger le personnel et les enfants. Et c'est ce qu'on a fait.
Une rentrée scolaire sur fond de Covid à Marseille. Près de 500 établissements nettoyés de fond en comble. 10 millions investis cet été pour les maternelles et les primaires. Le Premier ministre prend la parole ce matin pour évoquer la reprise de l'épidémie. Le masque est de plus en plus souvent obligatoire dans nos villes, mais pour l'instant, peu de verbalisation. Et puis, c'est du jamais vu dans le sport américain. L'affaire Jacob Blake déclenche un boycott des compétitions, notamment du côté des basketteurs de la NBA.
Juste après ce journal, la météo de Laurent Cabrol, votre santé avec le docteur Jimmy Mohamed. Écoutez bien, un premier cas avéré de réinfection au Covid à Hong Kong. Quels enseignements en tirer? Notre planète avec Fanny Agostini à 8h40, avant de retrouver le meilleur de Nicolas Canteloup avec Julie. Soyez les bienvenus sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Jamais un mouvement contre le racisme et les violences policières n'avait pris une telle ampleur dans le monde du sport américain. Tout est parti de plusieurs équipes de basket de la NBA qui ont boycotté leur match pour protester contre les tirs d'un policier contre Jacob Blake.
Les Lakers et les Clippers de Los Angeles ont même décidé de voter l'arrêt de la saison. Écoutez l'entraîneur des Clippers, des sanglots dans la voix.
Nous sommes ceux qu'on tue. Nous sommes ceux sur lesquels on tire. Nous sommes ceux qui sont empêchés de vivre au sein de certaines communautés. Et tout ce que vous faites, c'est alimenter la peur. C'est incroyable. Nous aimons ce pays. Mais ce pays ne nous aime pas. C'est tellement triste.
C'est vraiment triste. Like I should just be a coach.
Je devrais être un entraîneur, tout simplement. Mais on me rappelle, tout le temps, ma couleur de peau. C'est si triste. Nous devons changer les choses.
Doc Rivers, l'entraîneur du club de basket des Los Angeles Clippers, et le mouvement de boycott gagne du terrain, report des matchs de football, de baseball et de toutes les rencontres prévues aujourd'hui au tournoi de tennis de Cincinnati.
Et quant à Donald Trump, il promet de rétablir la loi et l'ordre à Kenosha, cette ville du Wisconsin où Jacob Blake a été grièvement blessé. Nous ne tolérerons pas l'anarchie dans les rues américaines, écrit le président sur Twitter.
Son adversaire à la présidentielle, Joe Biden, s'est lui entretenu avec la famille de la victime et lui a promis justice.
Les États-Unis toujours, où l'ouragan Laura vient d'atteindre l'état de Louisiane. Considéré comme extrêmement dangereux, il est classé 4 sur une échelle allant jusqu'à 5 avec des vents jusqu'à 240 km/h. 8h32 sur Europe 1. Le compte à rebours a commencé pour les parents comme pour les enfants. La rentrée, c'est mardi pour plus de 12 millions d'élèves. Et dans les écoles, on se prépare à les accueillir, notamment à Marseille.
L'enjeu est de taille avec non seulement l'ombre du Covid, mais aussi la vétusté des établissements scolaires régulièrement pointés du doigt sous la mandature de Jean-Claude Gaudin. La nouvelle équipe municipale assure que tout est prêt dans les 470 écoles primaires et maternelles. Reportage de Nathalie Chevance.
L'hygiène, la sécurité, un gros chantier, car dans certaines écoles, on part de loin, comme le pointe la maire de Marseille, Michel Rubirola.
Tout a été organisé pour que dans toutes les écoles, il y ait du savon, du gel hydroalcoolique, du papier toilette aussi, parce que ça fait partie de l'hygiène, que l'hygiène soit vraiment remis au centre. Il faut rassurer les parents, protéger le personnel et les enfants, et c'est ce qu'on a fait.
10 millions d'euros dépensés durant l'été, comme dans cette école du centre-ville où les lavabos trop vétustes ont dû être changés. Pierre Huguet, nouvel adjoint à l'éducation.
On a pu effectivement voir une forme d'abandon vis-à-vis des écoles qui n'était pas une des priorités. Donc là, ça marque effectivement une volonté de prendre cette question des écoles à bras le corps et d'en faire l'un des piliers de la politique municipale.
Et la semaine du grand nettoyage a commencé avec dans chaque établissement une pièce dédiée, un stock pour tenir un trimestre. Véronique, employée municipale.
Donc là, nous avons les savons à disposition, nous avons les gels, les serviettes papier pour les toilettes, le nouveau assainissement pour le sol, à disposition des agents et des masques. On suit un protocole.
Une feuille de route déjà bien rodée et qui sera transmise aux quelques 300 nouveaux agents actuellement en cours de recrutement dans les écoles. Marseille, Nathalie Chevance, Europe 1.
Marseille, où depuis hier soir, le port du masque est obligatoire dans toute la ville et où les bars ferment à 23h comme dans tout le département des Bouches-du-Rhône. Ce matin à Matignon, le Premier ministre Jean Castex tient une conférence de presse aux côtés des ministres de la Santé Olivier Véran et de l'Éducation Jean-Michel Blanquer.
Il devrait faire le point sur l'épidémie département par département et appeler à la vigilance.
On l'a dit, le port du masque se généralise à Bordeaux. L'obligation de le porter sera étendue lundi à tout le centre-ville. Alors comment cette mesure est-elle respectée? Y a-t-il des PV pour les récalcitrants? Réponse avec ce reportage. Reportage signé Stéphane Place.
Pas de vigile, mais une grande banderole à l'entrée de la rue Sainte-Catherine qui rappelle que le port du masque y est obligatoire. Une consigne très largement respectée, rarement contestée et juste parfois oubliée ou ignorée.
Je ne savais pas que c'était obligatoire. Je l'aurais su, je l'aurais mis. L'amende, c'est une bonne dissuasion. Je le porte parce qu'il faut le porter.
C'est pas la sanction, c'est qu'à partir du moment où l'obligation est là, on la respecte.
Oui. On ne va pas ne pas respecter pour ne pas respecter, c'est ridicule.
Voilà. Par contre, si on nous laisse le choix, je choisis de ne pas le porter.
La menace de l'amende, mais vous savez, je crois au civisme, à la solidarité. Il faut que ça deviennent de vrais réflexes.
Dans 80% des cas, pas besoin de verbaliser. Un simple rappel des policiers suffit, explique Amine Smi, l'adjointe au maire en charge de la sécurité. Seuls les irréductibles écopent d'une amende de 135 euros.
On a relevé sur ce week-end une moyenne par jour de 5 verbalisations. Et ce sont des gens qui avaient une posture d'opposition frontale et de refus catégorique de respecter la réglementation. Malgré tout, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il y a un consentement très fort, majoritaire. Beaucoup de gens s'interrogent sur la pertinence, la légitimité de cette demande.
Dès lundi, l'obligation de porter le masque sera étendue ici, dans le centre-ville. Bordeaux, Stéphane Place, Europe 1.
Des produits toxiques dans certains cosmétiques, c'est ce que montre l'étude du dernier numéro de 60 millions de consommateurs. Métaux lourds dans les dentifrices, substances polluantes ou cancérogènes dans des crèmes hydratantes ou encore des gels douche.
Si vous êtes un habitué du festival Rock en Seine qui se tient tous les ans au parc de Saint-Cloud en région parisienne, pas de concert en live à proprement parler cette année, il va falloir vous contenter d'un festival virtuel.
En fait, c'est une version rebaptisée Festival des Festivals qui sera diffusée ce soir sur France 2. Concert filmé devant seulement 1500 personnes, toutes masquées. Sur scène, une vingtaine d'artistes, Alain Souchon, Calogero, Benjamin Biolay ou encore Jane Birkin, de retour ce matin avec un nouveau titre, Jeux interdits. Comme tous les artistes, ça fait des mois qu'elle n'a pas chanté en public, alors elle appréhende.
On attend tellement longtemps pour faire un concert, depuis tellement de mois qu'on ne va pas bouder ça. C'est un peu vertigineux, je trouve. C'est différent quand il n'y a pas de télévision. C'est parfait, les gens ont un imaginaire que c'était peut-être mieux que ce que c'était. Ça fait peur quand même, même pour une petite chanson, parce que je suis parmi tous les autres.
Et quelle chanson vous allez interpréter ce soir, justement?
Les Jeux interdits, je vais chanter celle-là.
Elle se fabriquait des histoires.
La musique était écrite par Jean-Louis Pierrot et Étienne Dao. Et dès que je l'ai entendue, c'était si nostalgique et enfantine.
Elles ont terre et tout.
On a tout le disque depuis longtemps. On a juste hâte que ça sorte maintenant. La la la, la la la.
La la la, la la la. Des fausses rayures dans la nuit noire. Elle jouait toutes deux rouges interdites.
Jane Birkin avec Angèle Châtelier, son nouvel album sort fin novembre.
Et on sent aussi l'envie des artistes finalement de retrouver une vie normale, de retrouver la scène. Faudra patienter, en attendant ce sera un concert virtuel, donc festival virtuel pour Rock en Seine. Merci beaucoup Hélène Zélani, c'était le journal de 8h30. Bon réveil à toutes et à tous.
La météo avec Cdiscount. Cet été, même en vacances, Cdiscount livre tout ce dont vous avez besoin partout où vous êtes. Profitez de votre été avec Cdiscount.
La météo de Laurent Cabrol.
Ah, c'est aussi une orchestration, la météo. Alors, on va changer de temps. Alors, je le dis depuis 4-5 jours, je radote. Non, parce qu'on change de temps en ce moment même. Alors, nous avons d'abord des éclaireurs. C'est un petit passage pluvieux, là, entre Nantes et Angers, bientôt la Touraine, la Picardie concernée, le Nord tout à l'heure, et puis peut-être la région parisienne ce soir, enfin en tout cas la région parisienne, là, ça va tangenter la région parisienne. Et donc cette perturbation avec ces éclaireurs, ça n'est rien, parce que derrière il y a le gros de la troupe. Et quand le gros de la troupe arrivera, eh bien ça va traverser toute la France. Donc entre ce soir et demain soir, le temps va changer de manière radicale. Et quand la perturbation sera passée, eh bien les températures vont plonger. Donc tout cela est sur les rails, si je puis dire, et puis ça va se passer comme ça. Je pense qu'il n'y aura pas d'erreur de prévision. Et nous aurons donc un changement de temps radical à partir de demain, où il va pleuvoir copieusement, en certaines régions, tant mieux. Et puis il pleuvra aussi samedi, et puis dimanche, ça ira un petit peu mieux. Mais surtout, les températures seront dans l'ensemble à la baisse. Donc en ce moment, les pluies se sont plutôt sur la moitié nord et encore sur la moitié nord-ouest, c'est-à-dire le long des côtes de la Manche. Et petit à petit, elles vont traverser le pays. Voilà ce qui nous attend dans les jours qui viennent.
Merci Laurent. Vous restez bien sur Europe 1 dans un instant. Prenez soin de vous avec Europe Matin. Notre planète, Fanny Agostini, va nous parler du développement du monde rural grâce au numérique. Mais d'abord, votre santé, le docteur Jimmy Mohamed et ce premier cas avéré de réinfection au Covid. C'est à Hong Kong. À tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h41 sur Europe 1. Votre santé, c'est ce nouveau rendez-vous dans Europe Matin, juste après le journal de 8h30 avec le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mathieu, bonjour à toutes et à tous.
Alors, on essaye de comprendre, tout simplement, parce qu'on n'a pas la science infuse non plus. À 9h, vous entendrez, Jimmy, vous serez à l'écoute du journal de 9h, qu'en Chine, à Pékin, on circule sans masque. Ça y est, on nous dit que le Covid en Chine, c'est terminé. On nous explique qu'il n'y a plus qu'une dizaine de cas par jour et que ce sont des personnes qui arrivent de l'étranger. Et dans le même temps, vous nous parlez, vous, Jimmy, de ce premier cas de réinfection au coronavirus à Hong Kong. Il a été annoncé cette semaine, un premier cas de réinfection. Quels enseignements est-ce qu'on peut en tirer?
Alors, en ce qui concerne la Chine, déjà, on peut dire que la stratégie est différente de la nôtre. Nous, on a une stratégie de contrôle du virus. Eux, ils ont une stratégie de suppression du virus. Ils veulent que le virus soit disparu complètement du territoire. En ce qui concerne ce cas de réinfection, c'est un homme de 33 ans qui a développé des symptômes liés au Covid en avril dernier, qui a été testé positif, qui a guéri, et puis qui a été secondairement de nouveau testé au mois d'août, positif, et ils se sont assurés que ce n'était pas un portage chronique du virus, puisqu'on sait qu'on peut détecter un peu de matériel génétique au fond du nez, sans pour autant que ce soit contagieux. Mais il est vraiment tombé malade une deuxième fois. Alors, la question qu'on se pose, c'est celle de l'immunité. Elle n'est pas très claire. C'est l'immunité de type quantitatif et qualitatif. Je vais vous donner un exemple tout simple. Pendant la varicelle, on sait que lorsque vous faites une varicelle, vous êtes protégé toute la vie. Donc vous êtes tranquille. Si on s'intéresse à la grippe, l'immunité, elle est partielle, vu que le virus change chaque année, donc vous pouvez tomber malade chaque année. Si on prend un autre exemple qui n'a aucun rapport, c'est la dengue. La dengue, transmise par un moustique, lorsque vous faites un épisode, vous êtes protégé, mais si vous développez une autre infection à une autre souche, vous faites une forme encore plus grave. Donc déjà, c'est pas très clair sur celle du coronavirus. Et puis la question, c'est combien de temps? On pense que plus vous faites une infection sévère, plus vous allez être protégé. Mais on n'en est pas sûr. La protection, est-ce que ça va durer quelques mois ou quelques années? De toute façon, pour l'auditeur qui nous écoute, la seule façon d'éviter de se poser la question, eh bien, c'est de se protéger.
Et du coup, comment on se protège? Comment on prépare la rentrée, Jimmy? Là, vous avez un petit kit de survie à nous recommander.
Oui, alors la première chose, évidemment, c'est de porter un masque. Ça vous évitera d'attraper la grippe ou n'importe quel autre virus. C'est un outil de prévention et de protection. Le masque, on a dit qu'on en avait. Je vous conseille quand même de faire un petit stock, d'acheter une petite boîte en plus, puisqu'on ne sait jamais, en cas d'épidémie, ça peut être un peu l'angoisse. Acheter un thermomètre, ça paraît tout bête, mais je me rends compte que les gens n'ont pas de thermomètre à la maison. Alors, vous pouvez acheter un petit thermomètre à 3 ou 4 euros, ça suffit largement. Vous pouvez investir dans un thermomètre, vous savez, le pistolet frontal. Ouais. Coûte une cinquantaine d'euros.
On n'arrive jamais à le faire fonctionner, autant prendre
exactement.
Le bon vieux thermomètre.
Et la température, c'est la température rectale. Et puis, chez les personnes un peu à risque, qui risquent de faire des formes graves, achetez un oxymètre. Ça coûte une vingtaine d'euros sur Internet. Ça vous permet de mesurer le taux d'oxygène dans le sang. Ça suivre avec votre médecin, puisqu'on sait que vous pouvez avoir des signes de gravité du Covid avec ce petit appareil, c'est-à-dire que l'oxygène va baisser avant même d'avoir une gêne respiratoire. Pendant le Covid, tout le monde en a acheté, il n'y en avait plus. Donc c'est peut-être le moment de faire un petit achat si vous avez des personnes fragiles. Et puis enfin, dernier point, vaccinez-vous contre la grippe. C'est la seule façon de vous protéger. Vous savez, sur Europe 1, on écoute le monde changer. Peut-être qu'on va écouter aussi la santé changer. Et tout ce que je vous dis là, c'est vraiment dans votre intérêt. Je n'ai aucun conflit avec aucun laboratoire. Tout ce que je vous dis, c'est un peu comme votre médecin de famille. C'est dans votre intérêt et celle de votre santé.
Et puis pour les personnes à risque, vous parliez de la grippe. On n'a peut-être pas envie d'engorger les urgences non plus tout de suite. Ça fait partie aussi de cette forme de solidarité. Merci Jimmy. Le docteur Jimmy Mohamed qui répond à ces questions que vous vous posez tous les matins sur Europe 1 et qu'on retrouve de 15h à 16h, l'émission Sans Rendez-vous avec Mélanie Gomez. Merci Jimmy. Notre planète, tous les matins, avec Fanny Agostini. Bonjour Fanny.
Bonjour Mathieu.
Ah, ce matin, vous nous parlez du numérique qui est de plus en plus l'allié du monde rural. Ça paraît antinomique comme ça. Vous vouliez nous parler, Fanny,
antinomique
de... Bah oui, parce que dans le monde rural, on attend souvent la 4G. Hein. On parle de la 5G, on attend souvent la 4G encore dans le monde rural. Elle arrive. Vous vouliez nous parler, Fanny, de ce qui se passe en ce moment à Aurillac, le salon ruralitique.
Oui, c'est effectivement le salon de la ruralité connectée, Mathieu, le 15e du nom d'ailleurs, et il fait plus que jamais parler de lui cette année, car il mobilise les forces vives du monde du numérique en faveur de l'économie rurale, car nous sommes dans un contexte particulier où l'expérience Covid a prouvé que la campagne profonde n'est et ne sera plus la dernière roue du carrosse de la modernité, au contraire, elle passe même en tête de locomotive avec un mot d'ordre qui est liberté, c'est-à-dire que demain, tout le monde pourra faire un petit peu comme moi, décider d'exercer son métier là où il rêve d'habiter. Et cela est possible seulement grâce effectivement au débit sur tout le territoire qui arrivera d'ici 2025, ce qui nous permettra de vivre effectivement dans des espaces à faible densité de population sans en subir, et j'insiste sur ce point, sans en subir tous les sacrifices que cela impliquait auparavant.
Vous avez raison de le rappeler, vous êtes la seule chroniqueuse autorisée à ne pas être en studio avec nous. Vous vivez dans votre ferme pédagogique en Haute-Loire. Alors on pense bien évidemment au premier, à l'accès à la santé. Vous nous dites que demain, les soins seront mobiles et connectés.
Oui, oubliez les déserts médicaux en milieu rural. Demain, ce sera la santé qui viendra vers les gens et non plus l'inverse. Et l'une des nouveautés présentées d'ailleurs à ce salon ruralétique, une innovation présentée par la région Nouvelle-Aquitaine, c'est le consultobus, un bus itinérant équipé de tout le matériel de santé et connecté directement au centre hospitalier de la région. Un bus qui va donc se déplacer de village en village.
Et concernant les enjeux écologiques, là aussi, on est en plein dedans.
Oui, c'est même une grande chance pour faire face aux enjeux écologiques. Il se trouve que la ville d'Aurillac, encore une fois, attire comme un aimant des porteurs de projets au sein d'un incubateur de start-up installé depuis juillet dernier, avec comme grand principe construire des business models solides, capables de se déployer en région et de créer une économie au service du vivant, en utilisant sans se priver le numérique. D'ailleurs, si vous aussi, vous avez l'idée de lancer une entreprise, de vous lancer en tant qu'entrepreneur, et que le fin fond de la France ne vous fait plus peur, l'appel à projet est toujours ouvert pour changer de vie et surtout de cadre de vie.
Fanny Agostini, merci beaucoup Fanny. Votre planète, tous les matins, 8h47. Vous restez bien sur Europe 1, le meilleur de Nicolas Canteloup avec Julie, c'est à suivre.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
Il est 8h49 et c'est l'heure de les retrouver. Nicolas Canteloup et Julie, le meilleur de la revue de Presque.
Didier Raoult qui était donc entendu par la commission d'enquête parlementaire sur le Covid hier. Une commission dont le rapporteur est Éric Ciotti et nos équipes étaient sur place. Ambiance. Oui.
Bonjour, s'il vous plaît messieurs, on va arrêter les flashs. Voilà, on se concentre un peu. Bonjour monsieur Raoult, merci d'avoir répondu présent. Merci de vous présenter à cette commission d'enquête qui va faire son travail en toute transparence, et j'insiste là-dessus, en toute concomitance.
Il y avait longtemps.
Monsieur Raoult, vos résultats marseillais, que vous contrôliez d'ailleurs vous-même, étaient meilleurs que partout en France ailleurs. La science a-t-elle ainsi démontré, pouvez-vous nous le confirmer, que le gouvernement n'a rien fait?
Écoutez, moi je suis un médecin, je suis un scientifique, je ne suis pas un devin. Hein. Mais à l'évidence, au gouvernement, ce sont tous des tocards.
Hein. Oui.
Je fais ce que je sais faire, c'est-à-dire ce qui se fait de mieux dans la médecine. Personne, à l'évidence, n'aurait pu avoir de meilleurs résultats, voilà, c'est tout. Comparé à moi, tout le monde a de la purée de céleri dans le cerveau, voilà, c'est ce que je vous dis.
D'accord, donc je prends note, tout le monde, à part vous, a de la purée de céleri. Céleri. On vérifiera à l'Assemblée ce que veut dire céleri dans le cerveau. Voilà. Peut-être un mot, monsieur Raoult, monsieur le professeur, sur la chloroquine. Hein, en mars dernier, vous l'avez utilisée sur monsieur Estrosi Christian.
que je connais bien puisque nous étions en concurrence pour la mairie de Nice, ah oui, et que je ne peux pas l'encadrer de façon concomitante. Comment expliquez-vous, les résultats désastreux sur M. Estrosi, les résultats désastreux de votre traitement ?
Non, écoutez, mon traitement n'est pas désastreux. Hein. Estrosi, il a été guéri, que je sache.
Bon. Oui, mais justement, on attend vos justifications. Hein. J'espère que vous avez pris votre soirée parce que je ne vous laisserai pas sortir tant que vous n'aurez pas une explication qui soit concomitante.
Allez, on en vient à cette convention citoyenne pour le climat qui a rendu ses propositions. Vous savez, il s'agit de cette assemblée de 150 citoyens tirés au sort, chargés de travailler sur la réduction des gaz à effet de serre. Bonjour Emmanuel Macron.
Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, d'abord, je tiens à féliciter ces 150 citoyens, ceux et celles et ceux, tous et toutes, chacun et chacune, qui ont réussi à formuler tant de propositions, tant et tant. Je veux dire, vous savez, rappelons que ce sont des provinciaux. Et pourtant, malgré ce côté provincial, ils ont fourni un travail de qualité.
Oh, mais arrêtez.
Et je dois les saluer tous. Il y avait tant de personnalités différentes, des étudiants qui étudient, des plombiers qui plombent, des tripiers qui tripent, des travailleurs qui en bavent et des retraités qui bavent aussi.
Oh.
Et ils proposent aujourd'hui des solutions radicales pour notre planète. Agnès, Fabienne Hulachier l'a rappelé tout à l'heure.
Alors, parmi ces solutions, inscrire la préservation de l'environnement dans la Constitution, reconnaître le crime d'écocide, réguler la publicité, lutter contre l'artificialisation des sols, enfin, il y a plein de choses.
Oui, bon. Je tiens vraiment à remercier ces 150 José Bové. C'est fou. Moi, je pensais que j'étais la tête d'un pays moderne, la cinquième puissance mondiale, et en fait, non, je dirige 60 millions d'éleveurs de chèvres.
Oh, allez, bah, ils vont apprécier, encore. Merci, monsieur
Macron. Il n'y a plus de rester beaucoup d'éditeurs, vous savez.
Bah, on est fâchés avec tout le monde, là. La Convention citoyenne pour le climat a donc voté à 99,3% la reconnaissance du crime d'écocide, néologisme, hein, qui vise à réprimer les crimes commis contre l'environnement. Oui. Ce concept a pourtant été rejeté il y a peu par l'Assemblée nationale. Ben, on est avec le président de l'Assemblée, Richard Ferrand.
Oui, écoutez, bonjour madame, monsieur Béliard, monsieur Cabreau, de la rédaction Europe 1. Écoutez, ce que je vous ai, c'est un groupe de citoyens qui veut réprimer les crimes contre l'environnement. Je trouve ça très bien, je comprends très bien ça. On a tous aidé adolescents de notre jeunesse. Je comprends, il n'y a pas de problème, tout est là-dessus. Mais moi aussi, vous savez, j'ai eu des t-shirts chez Guevara, j'ai eu des cheveux longs, j'ai voulu protéger la planète. Et puis après, vous savez, autre chose, j'ai grandi.
Non, mais c'est-à-dire, pourquoi l'Assemblée avait rejeté cette notion, plébiscitée par tout le monde ailleurs ?
Écoutez, qu'est-ce que vous voulez, ma petite fille ? Vous préférez quoi ? Hein, franchement, vivre dans un monde avec des babouins et des flamants roses ou dans un monde avec de l'emploi ? C'est la vraie question qui se pose. Vous pensez que ce sont les ragondins qui vont vous trouver du travail ? Mais non, non. C'est une évidence, c'est une réalité. On a besoin de détruire la nature pour produire des biens de consommation et loger les habitants. Voilà, c'est comme ça. Hein. On voudrait rendre ça illégal, mais écoutez, franchement, on marche sur la tête.
Stop. Sortie d'un album qui s'intitule Rock'n'Roll Show, un album live avec deux grands artistes français qui ont partagé la scène ensemble, Francis Cabrel et Dick Rivers. Bonjour Francis Cabrel.
Oui. Bonjour petite Julie, bonjour à toi Mathieu Béliard, l'épopée Pierre, pardon, je me réveille le matin, mais quelle heure ? 8h53, bah, Mathieu, oui, qui a les paupières lourdes comme des bouteilles de butane.
Ah, il y avait longtemps.
Pauvre Mathieu, obligé de quitter la campagne normande pour rejoindre la ville folle et polluée aux murs de poussière. Pardon, bonjour, reste du troupeau. À toi, Ambeline. À mon cousin, à une lettre, oui, une lettre près, Laurent Cabrol, le poète des nuages, des cumulus
Cabrel
et des cumulonimbus.
Ah, ouais, alors, Francis Cabrel.
Et les Stratos aussi.
Oui, c'est bon. Parlez-nous de Dick Rivers.
Qui ça ?
Oh, mais Dick Rivers, allons.
Dick Rivers. Ça me dit quelque chose, Dick Rivers.
Oh là
ah
là.
Oui, pardon. Tu veux parler de Didier Rivière.
Traduit.
Oui, autant pour moi. Non, mais tu sais, Julie, je n'aime pas les anglicismes. Hein. Oui, j'aimais. Non, pour te confier une chose, j'aimais beaucoup Didier Rivière. Ça peut surprendre. C'est vrai qu'on a deux univers musicaux totalement différents.
Bah, oui, oui.
C'est vrai que les Français parlent toujours
de gens en vacances comme rocker, alors icône du rock de notre beau pays.
Quoi ?
Mais Didier Rivière, pour moi, était également très bon.
Attendez, Jean Vacances, c'est qui ça ?
Oui, Johnny Hallyday. Oui, Hallyday. Oui,
on le sentait venir quand même.
Oui, c'est une traduction peut-être un peu approximative, un peu comme votre matinale d'ailleurs.
Dis donc, ça va, oui.
Quand on se réveille à 8h53, on ne juge pas la matinale, monsieur Cabrel.
Bah ouais, je me disais, c'est bizarre, il n'y a pas d'info sur Europe 1.
Bon, alors on en revient à cet album.
Il y a eu des flashs avant, peut-être. Vous savez, moi, je ne suis pas très flash.
Francis, on revient à l'album. Là. Qu'est-ce qu'il y a comme chanson, comme artiste ?
Alors écoute, Julie, qu'est-ce qu'il y a comme chanson ? Il y a pas mal de chansons de Charles Fruit Rouge.
Alors attends, Charles Fruit Rouge, c'est qui ça ?
Ben oui, Chuck Berry. Oui, qui chante Jean Sois Gentil.
Quoi ?
Johnny Be Good. Jean Sois Gentil.
Oh là là.
Nicolas Canteloup, la revue de presse que vous retrouverez, Nicolas Canteloup et Julie, en direct à partir de lundi matin, évidemment, 8h57 sur Europe 1. Nous retrouvons Philippe Vandel, c'est la matinée qui continue, Culture Média, c'est l'heure.
Oui, c'est mon alarme pour dire que je dois venir vous parler à cette heure-là.
Ben, vous étiez déjà là.
Pour pas oublier, mais déjà
toujours
arrivé d'oublier.
Voilà. Avance, Philippe. Voilà.
Notre info média du jour aujourd'hui, bonjour Mathieu, c'est un dossier spécial dans La Croix consacré à la rentrée, plus qu'un dossier spécial parce que pendant 4 semaines, le quotidien va accompagner élèves et parents pour cette rentrée plus que particulière avec masque. C'est sous-titré Mission Impossible et Jérôme Chapuis, le rédac chef du quotidien, sera avec nous. Puis dans 2 jours, c'est la première étape du Tour de France à Nice. On sera avec Laurent-Éric Lelay, le grand patron du service des sports de France Télé. Évidemment, ils vont suivre le Tour de France d'une manière très particulière puisqu'il y aura une partie des équipes sur place mais une autre à distance. Quel dispositif et surtout au milieu des embouteillages parce qu'on n'est plus en juillet. Je ne sais pas comment ça va se passer dans les villes. Et puis enfin, Valérie Damido, surprise, ce n'est pas pour une nouvelle émission de télé déco mais pour une pièce de théâtre. Ça s'appelle Gwendoline et c'est évidemment une comédie.
A tout de suite, à Culture Média, c'est la matinée qui continue sur Europe 1. Je vais vous laisser la place, Philippe, et revenir demain matin. Alors à partir de 5h, c'est Sébastien Krebs qui va vous réveiller avec toute son équipe. Pour ma part, je serai là en direct dès 7h. D'ici là, le monde aura changé, on va vous le raconter.